Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Alors nous allons avancer un peu. Connaître le client, il y a des visites pour savoir quels sont ses problèmes, il y a des visites pour se rappeler à sa mémoire, il y a des visites pour lui montrer les échantillons, il y a des visites pour lui dire qu'on a de nouvelles offres. Et on fait tout ça. Et au bout de tout ça, un jour, généralement même pas le jour, on s'y attend. Il vous appelle, il dit, je veux commander. Mais tu ne peux pas dire que moi, je vais chez un client, c'est pour prendre un bon de commande. Si je vais chez 10 clients, il n'y a pas 10 bons de commande, c'est que je suis malheureux, je suis frustré, je vais arrêter d'aller chez les clients. C'est pareil pour l'évangélisation. Il faut faire attention à ne pas avoir l'obsession de celui qui vient se mettre à genoux et dit, je confesse que Jésus est Seigneur. C'est bon, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Donc, si vous ne regardez que ça, Paul nous dit que nous ne devons manquer aucune occasion d'enseigner, d'édifier, de fortifier, d'encourager, ainsi de suite. Donc, chaque fois, regardez les temps sur Dieu. Est-ce qu'on peut passer une journée sans voir quelqu'un qui se plaint au bénin aujourd'hui? Vous prenez 20 millions, si vous posez une question, quand il va commencer à vous sortir son chapelet de problème, vous allez demander d'arrêter. Vous allez voir à bord, là où n'importe quelle vendeuse là, c'est l'Italie du problème. Tout le monde a des problèmes. Si c'est pas que tu n'as pas le temps pour quelqu'un parle avec toi, dès que tu poses une bonne question à quelqu'un, il va te poser ses problèmes. Donc, ces problèmes-là sont des appels au secours. Toute personne qui a un problème veut avoir une réponse. Vous pouvez donc profiter de ces occasions-là pour témoigner. Le témoignage pouvant aboutir immédiatement à ce que la personne se convertisse, comme cela peut être une des nombreuses semences qu'on fait dans sa vie. Pour revenir à votre question sur les niveaux de vie, attention, je ne suis pas en train d'essayer de dire que vous devez être matériellement plus riche que quelqu'un forcément pour l'évangéliser. Ce n'est pas en termes de richesse ce que je dis. La Bible nous dit, la main qui donne est au-dessus. Et la Bible nous dit aussi, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un le salut si vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes sauvé, on doit le voir dans votre vie à vos fruits. C'est ce que Jésus dit, qu'on connaîtra ses enfants à leurs fruits. Si quelqu'un dit qu'il est sauvé, il n'a pas de fruits. En tout cas, on ne peut pas être sûr qu'il est sauvé. C'est ça la vérité. Heureux êtes-vous si vous connaissez ces choses. Mais ça ne s'arrête pas. Pour peu, pourvu, à condition que. On aurait pu inverser, on aurait pu dire, si vous les mettez en pratique, vous êtes sauvés. En français, c'est ça. Quand on dit, heureux êtes-vous si vous connaissez ces choses, c'est-à-dire tu es heureux, pourvu que vous les mettez en pratique. Ça veut dire, si vous les mettez en pratique, vous êtes heureux. Donc, sauvé êtes-vous si vous avez donné votre vie à Jésus. Pour peu que vous ayez vraiment marché avec lui. Donc, si vous marchez avec lui, et si vous marchez avec lui, vous porterez forcément des fruits, alors vous êtes sauvés. La réalité, c'est pour en dire beaucoup d'appelés peu d'élus. Je crois que nos églises sont pleines de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Nos églises sont pleines de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Certaines catégories d'églises beaucoup plus que d'autres. Il y a des églises où c'est habituel qu'à certaines messes, il n'y a que les sorcières qui arrivent. On sait très bien ça. Il y a des sorcières qui dorment à l'église. Et ça ne les dérange pas, ou bien? Je connais des églises dans lesquelles des fidèles ont bouffé leur pasteur, au Bénin ici. Des églises où des fidèles sorciers ont bouffé leur pasteur. Est-ce que ça fait sérieux maintenant? Est-ce que Jésus était quelque part par là? Vous voyez des choses comme ça? Non, ce n'est pas parce qu'on a mis quatre murs, on a mis que c'est Jésus, on a mis la Bible, et quelqu'un se balade avec une vieille Bible en main et dit qu'il est pasteur, qu'on a une église. L'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est le royaume de Dieu. C'est une citadelle fortifiée, c'est un camp militaire de Dieu. En fait, une église, c'est comme quand on est en guerre. Parce que Jésus, Dieu est en guerre contre Satan dans le monde. Et c'est un peu comme si Dieu veut reconquérir le monde. Dieu a créé son monde, Satan l'a envahi. Dieu est en train de faire ce qu'on appelle une guerre de reconquête. Tu as perdu le territoire, vous voyez, comme dans certains pays, comme par exemple au Congo démocratique actuellement, ou dans certains pays, l'ennemi prend tout le territoire. Maintenant, le propriétaire légitime, il prend du recul, il va s'armer, il revient, il dit maintenant, je vais reconquérir, un peu comme on a fait au Mali là, une par une les villes que j'ai cédées à l'ennemi. C'est des opérations militaires très complexes. Et quand tu finis de reconquérir le territoire, regardez au Mali, quand dans une petite ville, ils n'ont pas un bon camp, c'est là-bas qu'on est parti prendre deux gars de RFI qu'on les a massacrés. Si vous laissez un seul point, où vous n'avez pas un camp militaire solide, votre conquête ne sert à rien, l'ennemi prolifère là. Et ce qui s'est passé au Mali, ou bien, l'église est un camp militaire de Dieu dans un monde qu'il est en train de conquérir. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, Dieu dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre son église. L'église qui fonctionne bien, qui fonctionne selon la parole de Dieu, avec les différents ministères, un pasteur, des prophètes, des apôtres, des gens qui ont des dons de guérison, des dons de miracles, des révélations, des dons de discernement du Saint-Esprit, des dons de discernement des esprits, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, une église où les gens ont la foi, une église où les gens sont sanctifiés. Une église comme ça là, c'est un camp militaire de commando imbattable. Satan tourne, tourne, il fuit toujours. Ça là, il est obligé de laisser ce territoire là. Et l'église doit se multiplier comme autant de cellules redoutables. Et quand il y a une église quelque part, les gens doivent dire, bon, ça là, il faut laisser tomber, allons nous occuper des gars qui n'ont pas encore d'église. Mais il y a plein d'endroits où il y a des églises comme s'il n'y avait rien. La vraie église, quand elle est quelque part, on sent qu'il y a une église. Il ne peut pas avoir une vraie église quelque part et il y a un grand fétiche qui massacre tout le monde dans la localité et tous les enfants sont nés, lui sont consacrés. Cette église-là doit désactiver cette table-là et les gens vont voir qu'il a perdu son pouvoir. Je connais des endroits, par exemple, au Mali, où des chrétiens étaient. Il y avait une série de dieux païens, des rivières, tout ça. Ils ont même asséché des rivières païennes. Une église ne peut pas être quelque part et on dit que le diable règne là, c'est de l'autorité publique et il y a des chrétiens dans la localité, rien n'a été fait. Ah, dans ce coin-là, les femmes ne se marient jamais. Dans cette famille-là, personne n'a jamais 40 ans. Et puis l'église, oui, nous sommes dans un village où il y a personne ne meurt, personne ne dépasse 40 ans. Et l'église c'est un peu comme la politique dans notre pays. Les gens qui doivent régler les problèmes décrivent les problèmes. La mairie dit que Cotonou est sale. D'accord. Qui va la nettoyer? C'est pareil. Le chrétien peut venir dire, Satan règne dans mon territoire. Toi, tu es militaire. Tu es un commando. Dieu t'a équipé. Tu as l'équipement, le zèle de la parole de Dieu, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée du Saint-Esprit, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité. Tu peux tout par ce qui te fortifie. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Tu as l'Éternel, le Dieu des armées. Et tu oses dire que tu es quelque part où Satan règne. Et vous faites des discussions, pasteur, sur ça. Satan règne pourquoi? Satan règne, comme partout, quand une armée est en désordre. Quand une armée est mal organisée, il n'y a plus de généraux, il n'y a plus de colonels. Les soldats passent tout leur temps à faire de la prostitution, à violer les femmes, à manger, à boire. Quand une armée est comme ça, même des petits enfants soldats arrivent et deviennent des rebelles, on prend le pays, non? C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Si l'armée est en désordre, n'est pas disciplinée, comment les Congolais ils ont repris leur territoire? Ils ont changé des généraux, ils ont pris des gars honnêtes qui sont venus mettre balayer le désordre dans l'armée, ils ont réorganisé leur armée. Ils sont en train de reconquérir tranquillement le pays, rien ne va se passer. Parce que le désordre est terminé. Tant qu'il y a du désordre dans une armée, c'est pour ça que Jésus dit, un pays, une ville divisée contre elle-même, ne peut jamais gagner, elle va être détruite. L'église est divisée entre elle-même. Comment peut-elle être une base militaire sur laquelle Dieu peut s'appuyer, d'abord pour sécuriser le coin où il est, et lancer des offensives et revenir? C'est pas une base militaire. Vous êtes là. Quand il y a un problème, on regarde sur le territoire, où est-ce qu'il y a la base militaire la plus proche. On vous appelle, c'est vous qui allez intervenir. Et on sait que si l'ennemi doit venir par là, on ne peut pas mettre, par exemple, on ne peut pas avoir le camp militaire à Ouida et quelqu'un va arriver par là. C'est comme ça qu'on fait à l'église. Ce n'est pas normal. Cela révèle, quand ça se passe, que l'armée qui est là est incompétente. Si Satan règne et continue de régner, c'est parce que les bases militaires chrétiennes sont endormies. Et il faut les réveiller. Maintenant, vous parliez de niveau de vie. La main qui donne est au-dessus. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez donc pas gagner quelqu'un si vous n'avez rien qu'il a envie d'avoir. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas gagner quelqu'un pour le Seigneur si vous n'êtes pas capable de lui démontrer que vous êtes l'enfant d'un Dieu qui a quelque chose qu'il veut. Parce que les gens vont au salut. Être sauvé, c'est quoi? Aller au salut, c'est quoi? C'est être sauvé. Être sauvé, c'est aller quelque part où il y a la solution à ses problèmes. Donc, quelqu'un ne peut pas vous suivre sous prétexte qu'il veut être sauvé. S'il ne voit pas en vous les signes que vous êtes avec quelqu'un qui s'est sauvé, tu viens, tu es maigre. Tu dis de te suivre pour aller chez le Dieu qui donne à manger. Et, il donne à manger, toi tu es comme ça. C'est toi qui as voulu manger ou bien tu n'as pas donné assez. Tu dis que ton Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Toi-même, tu as mal de tête, quand on te voit, tu vas acheter paracétamol. Tu fais un peu de sport, tu vas prendre doliprane. Dès que tu manges un peu de piment, tu vas prendre des médicaments pour la diarrhée. Tu es tout en train de prendre médicaments ou d'acheter des trucs au bord de la voie là. Et maintenant, tu viens dire aux gens, viens, je vais t'amener au Seigneur. Le Seigneur guérit, c'est le Dieu qui guérit. Il va se dire, même s'il est gentil, il te dit à haute voix. S'il ne veut pas te frustrer, il se rappelle qui tu es. Celui-là, il connaît le Dieu qui guérit. On ne dirait pas. Donc, tu dois avoir quelque chose à donner. Mais ce quelque chose n'est pas toujours de l'argent. Et ce ne pense pas même que c'est un rapport avec l'argent. Regardez Pierre. Quand ils sont partis devant le temple, il y avait un gars paralysé qui mendiait. Donne-nous de l'argent. Pierre dit, je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Le gars a marché. Même s'il était plus riche que Pierre, Pierre lui a donné quelque chose que personne ne pourrait lui donner. Lève-toi et marche. Quelqu'un est malade, tu viens, tu lui imposes la main guérie. Tu as quelque chose de plus que lui. Tu as des problèmes. Là où d'autres personnes se seraient déjà en train de se demander si vous pouvez se suicider, seraient déjà maigres, seraient déjà en train de s'énerver, ne pourraient plus dormir. Tu es calme, tu es serein, tu souris. Les gens s'inquiètent pour toi. Ils disent, c'est pas grave, laisse tout concomber ceux qui aiment Dieu. Tu peux voir ton enfant dans un problème, le laisser souffrir, alors que tu as la solution. Non. Si tu le laisses souffrir, c'est soit que c'est bon pour lui, ça va lui apprendre quelque chose. Soit que tu ne peux rien faire par rapport à ça, mais tu as un plan B pour lui. Ou alors, il y a toujours une raison. Un père qui a les moyens ne prend jamais plaisir à laisser ses enfants souffrir. Je connais mon père, il est fidèle. Et en plus, il ne manque pas de moyens. S'il me laisse dans ce problème-là, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est tellement pour sa gloire, parce que je le connais. Il aime que les situations pourrissent. C'est-à-dire, un gars vient te voir et pense que tu es accablé. Et tu en trouves encore la force de lui montrer la gloire de ton père. Il voit en toi une sérénité. Il voit que tu as la paix. Pas comme le donne le monde, mais comme seul Jésus peut le donner. C'est la seule. On a tous des problèmes, mais on ne vit pas nos problèmes de la même manière. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne s'inquiètent pas pour le lendemain. Moi-même, si un jour je n'ai pas un franc, je sais que Dieu ne peut pas permettre que je n'ai pas un franc longtemps. Et je n'ai pas besoin de m'agiter. Ça viendra forcément. Parce que j'ai appris que mon Dieu est fidèle. Satan peut trembler, les choses peuvent s'agiter n'importe comment. Il se lève toujours à temps. J'ai le Dieu qui n'agit jamais trop tard, mais qui n'agit jamais trop tôt. Et le Dieu que nous avons n'est pas là que pour satisfaire nos besoins. Il est aussi là pour se glorifier. Je vous l'ai déjà dit, peut-être que quelqu'un veut te tuer. Dieu peut l'empêcher même de venir dans ta maison. Mais Dieu peut choisir aussi de le laisser venir, de le laisser venir avec une âme, comme c'est arrivé à Paracou la dernière fois, de venir, il te braque, il finit de braquer tout, tu dormais, et puis Dieu fait maintenant, il se couche dans ton salon, il s'endort. Et tu viens voir là à 9h. C'est arrivé à Paracou. Une dame chrétienne que les voleurs tout le temps venaient la narguer, voler. Un peu pour dire, bon, si tu connais Dieu, ok, empêche de nous voler. Et la dame a confié ça à Dieu. Elle dit, quand il revient à voler là, qu'il reste là, que je viens le voir. Le gars finit de voler. Il a pris une moto, il a fait tout son paquet. Et il s'est couché là, il a dormi. Quand on l'a arrivé, on a dit, où je suis? On l'a pas dit, je ne sais pas. J'ai fait tout faire, pourquoi j'ai dormi? Il y a quelqu'un là qui l'a fait dormir. Est-ce que si Dieu avait simplement empêché le voleur d'arriver, il aurait été glorifié comme maintenant qu'il a laissé le voleur arriver et dormi dans la maison où il est venu voler? C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que s'il n'avait pas laissé les Abed, Meshach et Confé rentrer dans le feu, on parlera aujourd'hui du Dieu qui permet que les gens soient dans le feu et ne soient pas brûlés. Dieu pouvait tourner le cœur du roi comme il a fait dans le cas de Esther et Confé, que le roi change de décision. Mais il dit non, mettez-les dans le feu. Parce que Dieu veut que l'histoire retienne qu'il est le Dieu qui laisse ses enfants dans le feu sans qu'ils ne soient brûlés. Qui est le Dieu qui peut ouvrir la mer rouge. Il y avait d'autres chemins qu'ils auraient pu prendre. Pourquoi Dieu les envoie au chemin où ils sont obligés de se faire face à la mer? Parce que Dieu veut que l'histoire retienne, que lui peut ouvrir la mer. On est d'accord? C'est comme ça que Dieu travaille. Il aime les scénarios qui le glorifient. Et notre vie doit glorifier Dieu. Quand vous savez tout ça, même si vous avez des problèmes, même si vous êtes dans l'épreuve, même si vous n'êtes pas matériellement plus riche que quelqu'un, si vous manifestez les fruits du Saint-Esprit, l'amour, tout le monde a fait problème. Quand on commence à avoir des problèmes, il y a des gens qui, à l'heure de manger, ferment toutes leurs portes, tu ne vois pas qui mange. Si toi, tu continues à l'heure de manger, tu dis, je suis en train de manger, et qui veut venir manger? Tu avais déjà, ça, c'est un gars normal, par exemple, qui couvre ça. Il ne te reste que 100 francs. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu vas manger seul. Tu vois quelqu'un qui a un problème, tu lui donnes tous les 100 francs, ce n'est pas grave, Dieu fera pour moi. Effectivement, il est encore là avec toi. Quelqu'un s'en va. Ah, Roméo, je passais ici, j'ai voulu te faire un petit cadeau, tiens, 10 000 francs. Et continue son chemin. Il va te regarder en même temps. Il va se dire, t'as vu que l'a fait là, c'est sérieux quoi. J'ai demandé 100 francs. J'ai vu qu'il n'avait que 100 francs. Si c'est moi, je ne vais jamais donner. Il dit, je peux te donner, ce n'est pas grave. Le Dieu que moi j'ai pour voir. Et votre Dieu, c'est comme ça que je travaille. Hein. Le gars ne sera pas levé que quelqu'un va te donner devant lui l'argent. Et vous allez vous regarder. C'est comme ça que Dieu travaille. Ou tu fais une discussion avec quelqu'un. Moi, ça m'arrive tous les jours. Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Tu dis, dans tous les cas, le Saint-Esprit va nous en convaincre. Il n'y a pas de problème. Il dit comment? Il croit que le Saint-Esprit va nous en convaincre. On verra. Tu es avec la même personne. Dieu fait que vous êtes ensemble. Un jour, quelque part, vous n'êtes pas exemple, à la télé. Et vous tombez par hasard sur un programme. Un prédicateur est en train d'expliquer exactement vos sujets de divergence. Il fait le discernement des trucs. Et la réponse est claire. Vous vous regardez, vous n'avez pas besoin de parler. Ce gars-là dit, quand il parle de son Dieu-là, apparemment, c'est auto-auto. Hein. C'est cette petite chose-là que le chrétien doit avoir de plus que les autres. Les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que tu es voleur? Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es capable d'être heureux pour le bonheur des autres? Est-ce que tu es capable de rechercher des choses qui glorifient Dieu et pas n'importe quoi? Est-ce que tu es capable de voir de l'argent? Là, on va te dire, bon, mens simplement pour prendre l'argent. Tu dis, moi, je ne mentirai pas. Parce que je sais que bien malaki ne profite pas. Je préfère dire la vérité qu'on me punisse. Et tu es au boulot, tu dis la vérité. Et tout le monde voit qu'on te punit. Et rapidement, la situation se retourne. Et le chef dit, bon, on devait le punir, mais ce n'est pas grave. Laissez-le, il est honnête. Et quand on dit, ah, donc ça veut dire que l'honnêteté paye vraiment. Il a raison. Mais si toi qui es le chrétien, parce qu'il y a une épreuve, tu acceptes de mentir comme tout le monde pour t'en sortir. D'accord, vous allez peut-être éviter le problème. Mais tu as manqué une occasion de leur montrer que tu as quelque chose de plus qu'eux. Quelqu'un dépose 1 million, il oublie. Tu es en salle d'attente avec quelqu'un, il dépose 1 million dans un sachet, il s'en va. Tu es le seul qui est là, tu prends le million. Et tu cherches son téléphone, tu viens dire, tu as trouvé 1 million. Il dit, vous avez dit quoi? Vous êtes qui? Il va te demander qui est qui. Pas le temps qu'il coupe pour trouver 1 million. Qui l'a laissé lui apporter ça ou bien? C'est quelque chose que tu as de plus que lui, parce que lui ne peut pas faire ça. Donc, ce n'est pas seulement l'argent. Votre manière de vivre, votre manière de penser, votre manière de parler. On le voit souvent, quelqu'un n'a pas dit, les temps sont durs. Tu dis, ne me dis plus ça, c'est des bêtises ça. Tu sais pas, c'est comme ça que tu te crées des problèmes. Et rapidement, tu lui expliques comment ce qu'il dit lui crée des problèmes. Et tu lui montres que tout ce qui lui arrive, c'est ce qu'il a dit. Tu te réveilles chaque matin, tu dis, maintenant, qu'est-ce que les enfants vont manger? Voilà, il n'y a plus rien dans le pays. Aïe, aïe, mais dis à mon tia. Et le soir, c'est ce qui lui arrive. Demande-lui, est-ce que quelque chose lui est jamais arrivé qu'il n'a pas dit? Il n'y a personne qui ait jamais eu un problème qui n'a pas ouvert sa bouche pour dire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Satan nous fait toujours confesser ce qui nous fait de mal. Et Dieu veut toujours que nous confessions ce qui nous fera de bien. Il faut croire du cœur pour être justifié, mais confesser de la bouche pour être sauvé ou condamné. Si quelqu'un est au chômage, je mets au défi un chômeur de n'avoir jamais dit qu'il n'y a plus d'emploi au Bénin. Tout chômeur dit ça tous les jours. Ou bien, c'est ce qu'il lui a fait. Si un chômeur dit qu'il y a de l'emploi, que son emploi existe, que son emploi viendra à lui et que dans tous les cas, lui aura son emploi. Il aura son emploi. Nous avons toujours ce que nous disons. Tu vois, les gens disent, oui, j'ai une petite entreprise qui fait des travaux d'entretien. Et après, ils disent que son entreprise ne décolle pas. Tu passes toute ta journée à dire que tu as une petite entreprise de moto, tu as une petite entreprise de transport, tu as une petite entreprise de BTP. Une petite entreprise. Et tu pries pour que l'entreprise grandisse et tu l'appelles tous les jours petite entreprise. Alors que nous appelons à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand tu dis coq, ce n'est pas la poule qui arrive, c'est le coq qui arrive. Si tu dis chien, le chat ne viendra pas. Quand tu dis petite entreprise, c'est la réalité spirituelle d'une petite entreprise que tu appelles. Les choses dans la nature ont des oreilles spirituelles. Sinon, Jésus n'aurait pas pu parler au figuier pour le maudire. Il n'aurait pas pu parler à la tempête. Il ne dirait pas de parler à la montagne. Les choses ont une réalité spirituelle. Ils entendent. Quand tu dis que les temps sont durs, c'est le nom d'une situation, des temps durs. Tu es en train, la même manière que tu appelles ton enfant, un pipo, et il arrive. Quand tu dis les temps sont durs, tu appelles la réalité spirituelle des temps durs. Et ils viennent. Ou bien, on appelle un nom de quelque chose, la personne n'arrive pas. Le nom, c'est ce qu'on appelle quelqu'un. À quoi sert un nom dans la vie? À quoi sert un nom dans la vie, à part d'appeler les gens? Quand on utilise le nom de quelqu'un, c'est pour qu'il vienne, non? Quand vous dites quelque chose, pourquoi vous ne voulez pas que la chose vienne? Vous passez votre temps à appeler le nom de quelqu'un, et il vient, tu dis pourquoi tu es arrivé. Je suis là, je dis Max, il vient, je ne sais pas appeler. Je dis encore Max, il vient, je ne sais pas appeler. Ça ne marche pas comme ça. Quand je dis Max, il vient. Même si c'est un blague, quand je dis Max, il va venir d'abord avant de découvrir que je mentais, ou que je blaguais. Ah, c'est comme si je vais avoir un palu. C'est tant pis pour toi, tu vas avoir le palu que tu as dit. Ah, en période de fête d'année maintenant, il y a beaucoup d'accidents, hein. Les gens meurent. Tu vas mourir, tant pis pour toi. Les gens meurent. C'est toi qui es Dieu. Nous n'avons pas à prendre notre bouche pour confesser ce que Satan fait. Nous devons prendre notre bouche pour dire la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Vous ne devez jamais prêter votre bouche à Satan. Vous ne devez la prêter qu'à Dieu. Prêter sa bouche à Dieu, c'est ne dire rien qui soit contraire à ce que Dieu a dit. Chaque fois que, sous prétexte de description, de plainte ou de n'importe quoi, votre bouche dit ce que Satan veut, votre bouche a appelé ce que vous avez dit. Et c'est dans ces petits détails, et il y en a plein, Dieu vous offre plein d'opportunités, que celui qui n'est pas chrétien, qui vous voit, doit sentir la différence entre vous et lui. Votre vie doit lui plaire en quelque chose. Quand il voit avec votre épouse, par exemple, il vous voit en couple, votre vie de couple doit lui plaire. Il y a des gens qui peuvent venir au Seigneur simplement parce que votre vie de couple chrétien leur plaît. Votre humilité avec votre épouse, avec vos enfants. Est-ce que vous parlez poliment à vos enfants? Est-ce que vos enfants sont civilisés? Est-ce que vos enfants sont gentils? Est-ce que vos enfants sont généreux? Vous ne réalisez pas. Quand les gens sont dans le monde, ils font le malin. Mais ils connaissent la valeur des bonnes choses. Quand vous vivez selon le standard de Dieu, vous êtes une lumière qui brille. Personne ne peut ne pas la voir. Et c'est cette lumière qui brille que vous devez être. Cette saveur qui sale le monde que vous devez être. Et quand vous êtes comme ça, c'est les gens même qui vont vous offrir généralement des opportunités de pouvoir leur en dire plus sur le Seigneur ou de pouvoir les inviter. Donc ne soyez pas complexé par vos ressources matérielles pour évangéliser. Si par exemple tu vas voir un milliardaire, c'est sûr que tu as plus de paix que lui. C'est sûr qu'il peut avoir des grands problèmes qui sont liés simplement à son utilisation de sa bouche. Là où toi, la maîtrise de sa bouche te permet de gérer des petites choses, si tu donnes ce conseil, ça lui permet d'éviter de grosses catastrophes. Tu ne réalises pas ce que tu lui as donné. Moi, par exemple, je disais la dernière fois, tout le monde m'imagine milliardaire. Amen. Dieu m'a promis que je serai milliardaire. Nous, c'est certainement des prophéties qu'ils font. Mais la réalité, la vérité, c'est que je suis même plus que milliardaire, je suis multimilliardaire. Personne ne sera jamais plus riche que moi. Mais la réalité n'est pas encore totalement ça. Toutefois, pendant longtemps, je disais, mais pourquoi tout le monde pense que je suis milliardaire? Et je ne comprenais pas. Je me disais, c'est la médisance, bon, c'est la prophétie, c'est quoi? J'en sais rien. Mais Dieu m'a expliqué la dernière fois et j'ai compris, c'est très clair. Dieu m'a dit, comme personne ne voit le compte bancaire de personne, l'indicateur auquel on apprécie ta valeur, c'est ce que tu dépenses. Si tu vas voir quelqu'un qui pour manger dépense 50 000, tu te dis que s'il ne gagne pas au moins 500 000 ou 1 million par mois, il peut pas être en train de manger un repas à 50 000. On est d'accord? Le gars peut avoir 50 000 salaires, il va s'asseoir et manger 50 000. Hein. Mais quand tu vois quelqu'un manger un repas pour 50 000, tu te dis qu'il doit être au moins, quelqu'un gagne au moins 1 million par mois, sinon il ne peut pas prendre un repas à 50 000. On est d'accord? Si quelqu'un vient te poser un problème de 30 000, tu sors la main de la poche, tu lui donnes, il se dit que Tu ne peux pas en tout cas avoir ça de 30 000 et de 30 000 qui a posé problème. C'est parce que Dieu va de 100 000 pour lui donner 30 000 qui a posé problème. C'est que tu dois avoir beaucoup plus pour lui donner. Et ainsi de suite, où tu vas voir quelqu'un, tu as appris quelque chose dans la vie, dans ta marche avec Dieu, Dieu t'a appris des leçons. Peut-être que toi, tu as des petites affaires, une petite agence immobilière, tu brasses peut-être 500 000 francs par mois, ça te va. Mais Dieu t'a appris des choses par la sagesse. Ça te sauve. Tu vas voir quelqu'un qui est peut-être un patron d'une usine, qui brasse des milliards, qui perd parfois des milliards par manque de sagesse. Tu lui donnes ce conseil-là, le mois qui suit, toi tu ne sais pas, mais il gagne 2 milliards de profit. Toi tu ne sais pas ce que tu lui as donné. Tu parlais avec lui, tu lui as donné un conseil. Mais lui, il considère que tu viens de lui donner 2 milliards déjà le premier mois. Quand il te regarde, il ne voit pas quelqu'un qui est petit. Il voit quelqu'un qui peut faire gagner à quelqu'un 2 milliards. Vous me suivez. Cela veut dire que pour évaluer votre valeur, les hommes font la somme de ce que vous avez donné. Plus vous donnez, plus vous êtes supposé en avoir. Parce que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Alors, les gens se disent, un gars qui réunit les gens, ils font la mesure pour voir Dieu, il a partagé 8 millions. Si j'ai le cœur qu'ils ont, avant de partager 8 millions, il faut que j'ai beaucoup d'argent qui ne serve à rien. Ils ne savent pas par quel jonglage ce que j'ai sacrifié pour dépenser 8 millions pour la gloire de Dieu. Ils viennent au club de Jésus pour réussir, ils voient une salle qui coûte 2 millions, ils voient du matériel pour 2 millions. Eux, ils ne feront jamais rien avec leur argent s'ils ont un seul besoin en instance. Donc pour eux, pour faire tout ça là, pour Dieu, il faut avoir tellement de tous ces problèmes de ne plus savoir quoi faire de l'argent et donc prendre le surplus pour être en train de le gaspiller pour Dieu. On va commencer maintenant en période des fêtes. On va faire un marathon. Pendant tout le mois de décembre, on va aller de quartier en quartier, de village en village. On va sortir de matériel, louer Dieu, faire danser les gens gratuitement. Les gens du monde imaginent, qu'est-ce que ça coûte de louer une sono pour une soirée? Avec les jeux de lumière tout et tout. Et vous déplacez 50 personnes. Vous faites ça de ville en ville, de village en village. Chaque fois, ils veulent voir un prix, c'est gratuit. Les gens font la somme de tout ça. Ça fait quand même 10 ans que je suis au Bénin. Et ils se disent, mais pour avoir donné, côté donné tout ça, et on ne le voit jamais en train d'avoir des problèmes. C'est qu'il doit être très très riche. Et Dieu m'a démontré que j'ai déjà donné pour des milliards de gens. Celui qui a donné des milliards, il est milliardaire. Il est multimilliardaire. Et c'est valable pour vous. Vous êtes dans votre quartier. Vous pouvez aller voir quelqu'un. Il peut être aussi pauvre que vous, pas plus pauvre que vous, ce n'est pas le problème. Son enfant est malade. Il a peut-être, je ne sais pas, une drépanocytose ou bien un ulcère. Tous les mois, ce gars-là engloutit 30 000 fois à l'hôpital pour sauver son enfant. Vous êtes chrétien. Au nom de Christ, je sais que cet enfant ne sera plus jamais malade. Vous rentrez chez vous, vous priez. Tous les soirs, vous êtes testé pour l'enfant. À la fin de la semaine, l'enfant est guéri. Le gars dépense plus 30 000 francs par mois. Vous avez donné, c'est sur une année, 30 000 francs fois 12, 300, 60 000 à ce gars-là. Quand il vous voit, il voit quelqu'un qui lui rapporte 30 000 francs au moins par mois. Il voit un magicien. S'ils sont 20 comme ça dans votre quartier, quand il vous regarde, il ne vous voit plus vous. Il voit le magicien qui a fait tout ça. Il voit Christ en vous. Vous êtes devenu un vrai témoin de Jésus. Et quand c'est comme ça, il vous traite comme qui vous passez pour être parce que vous avez donné. Moi, il y a des choses qu'on ne peut jamais me faire au Bénin. Parce qu'on s'imagine que je suis quelque chose qu'on ne peut pas oser toucher. Ça, c'est la gloire de Dieu. Il y a des choses que quelqu'un va faire, on va l'enfermer le même jour. Si je le fais, ils vont m'appeler, ils vont demander gentiment qu'est-ce qu'on fait. Prenez ce petit détail-là. On est d'accord? Il y a des gens qui n'ont pas 30 000 francs de dette, on les défait. Moi, même si je dois 30 millions, personne ne peut me défaire au Bénin pour 30 millions. On est d'accord? Oui ou non? Oui ou non? Mais c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent que tu as. C'est qu'est-ce que tu représentes. C'est qu'est-ce qu'on voit en toi. C'est qu'est-ce qui brille en toi. C'est l'onction que Dieu met sur ta vie. C'est pour ça que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Ce n'est pas possible. Mais les gens courent derrière l'argent. Ça ne leur apporte pas ce qu'ils veulent. Et ça ne leur apporte rien d'autre. Si vous êtes avec Dieu, vous aurez tout. Vous aurez l'argent en plus. Et dimanche prochain, au niveau du culte, à 19h, je vais donner le message sur ce thème. Comment se délivrer de l'esprit de pauvreté? Parce qu'il y a un redoutable esprit de pauvreté dans l'église. J'ai écouté encore une émission catastrophique qui prêchait la pauvreté. Il faut que cette pagaille-là s'arrête. On ne peut pas être chrétien pour être pauvre. Si quelqu'un veut être pauvre ou quelqu'un ne sait pas comment devenir riche, il n'a qu'à lire les Écritures. Quand les gens ne savent pas comment répondre aux fidèles qui sont pauvres, on leur dit que c'est parce que Jésus veut qu'ils soient pauvres qu'ils sont pauvres. En fait, c'est ça. On dit aux gens que c'est parce que Jésus veut qu'ils soient pauvres qu'ils sont pauvres. Parce qu'on n'est pas capable de leur dire comment prospérer. Il ne faut pas raconter des bêtises. Jésus a dit, je me suis fait pauvre pour que vous soyez riches. Le gars meurt à la croix pour votre pauvreté. Vous dites que vous avez fait vœu de pauvreté. Et quelle autre imbécilité? On dit heureux les pauvres. Comme si ce n'était pas écrit en français. On dit heureux les pauvres en esprit. Ils oublient le en esprit là. Pauvre en esprit, ça veut dire en esprit. Ça ne veut pas dire pauvre, ça veut dire quelqu'un d'humble. C'est français. Et on dit n'importe quoi. Des gens sérieux prennent les antennes et confortent le peuple dans la pauvreté. Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Vous prêterez aux nations. Ce n'est pas vous d'emprunter. La dette est un serpent. Un homme qui doit être l'esclave de celui auquel il doit, la Bible dit. Ou bien, comment les chrétiens peuvent devoir à tout le monde et régner comment? Tu dis que tu veux conquérir le monde pour Dieu. Et tu dois au monde. Tu appartiens au monde. Dieu est juste. Il a dit à Satan, il n'y a rien de toi en moi. Tu dois l'argent à quelqu'un, tu vas l'attaquer comment? Et quelqu'un ne peut pas faire un seul programme à l'église sans aller mendier chez les païens du sponsoring. Et après, ils disent qu'ils ont quelque chose à donner aux païens. Ça ne fait pas sérieux. Donc, vous avez compris, hein? Une autre question? Oui? Allons-y rapidement.
Amen.
Oui.
Ce qui est un prudent est que il y en a qui sont optimistes. Ils prononcent des bonnes choses, ils déclarent des bonnes choses sur eux-mêmes. Je serai riche, je serai ci, je serai ça, je vais réussir. Et dans la vie, on voit le contraire. Et même, ils le constatent. Et quelle appréhension vous donnez de cela?
Je vais expliquer tout ça dimanche, mais je dirais en bref, c'est comme toute chose. C'est comme si on te dit, si tu ne mets pas d'essence dans ton véhicule, tu vas tomber en panne. Tu dis, oui, j'ai mis de l'essence, mais je suis en panne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font fonctionner le moteur. S'il est vrai que sans essence, tu es en panne, tu peux avoir l'essence que ta bouchée soit gâtée, que ton filtre à essence soit bouché, que ta batterie soit à plat, que la courroie motrice soit gâtée. Tu auras de l'essence, mais tu vas être en panne. On est d'accord? Donc, la prospérité, comme toutes les vertus, comme tous les fruits, est le produit d'une série de lois qui convergent vers ce résultat. Si vous respectez une loi, c'est bien. Parce que si vous ne la respectez pas, vous payerez le prix. Mais si vous respectez une loi et que vous négligez 10 autres lois, vous n'irez nulle part. On dit de mettre les gens dans ton véhicule, tu as mis et tu n'as pas gonflé les pneus. Tu vas aller où avec? C'est ça la vie du chrétien. La parole de Dieu nous donne un mode d'emploi de ce qu'il faut surveiller. Ta voiture ne bouge pas, regarde l'essence. Si ce n'est pas l'essence, regarde la batterie. Si ce n'est pas la batterie, regarde peut-être le démarreur. Regarde la bougie, regarde la courroie. Tu ne peux pas faire le tour de tout et ne pas voir pourquoi ça ne marche pas. Ou bien, obéir aux lois de la voiture, c'est la seule manière de la dépanner. Obéir aux lois de Dieu, c'est la seule manière de dépanner une vie, de dépanner une destinée. Quand quelqu'un a des problèmes, s'il fait le checking des principes de Dieu, il verra dans sa vie quel principe, au singulier ou au pluriel, il ne respecte pas. Ça peut être quelqu'un qui prie tous les jours et qui déclare qu'il va être béni, mais qui n'y croit pas. C'est le premier cas. 90% des gens qui disent « Je suis riche au nom de Jésus », au moment où il dit « Je suis riche au nom de Jésus », lui-même n'y croit pas. Tout le monde est en train de dire « Il dit ». La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, il doit y avoir un alignement de ce que tu dis et ce dont tu es convaincu. Tu peux mentir au pasteur et à tes frères à l'église que tu crois que tu es en train de dire quelque chose que tu crois. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. La plupart des gens ne croient pas qu'ils peuvent être bénis. Ils ont vécu un peu comme les juifs, tellement dans la misère et l'esclavage, qu'ils ne croient même plus que le bonheur est possible. Ils se disent, c'est trop beau pour être vrai. Donc tout en priant, Satan, quand il commence à déclarer, Satan dit, avant tu crois? Avec toutes les dettes que tu as, qui est dans ta famille qui est riche? Tout le monde est pauvre, tu n'as même pas de vélo. Tu dis que tu veux être milliardaire au nom de Jésus. Ne reviens pas fêter. Dieu a dit heureux les pauvres, pour toi c'est la pauvreté, et puis Dieu va te bénir là-bas. Dès que Satan t'a balancé cette rafale de fausses paroles, tu dis c'est vrai, en toi, Seigneur, fais ta volonté. C'est déjà zéro pour toi. Parce que la Bible dit que celui qui doute ne s'imagine même pas, il recevra quoi que ce soit de Dieu. Donc quand tu as fini de prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Satan te suggère ces deux phrases, et tu changes, tu dis, bon, que ta volonté soit faite. À la poubelle. Échec, tu repasseras l'examen au prochain problème. Entre autres, est-ce que tu payes ta dîme? Vous vous moquez de moi, vous me volez. Comment vous me volez? Vous ne payez pas vos dîmes. Payez vos dîmes, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel chez vous et si je ne chasserai pas le dévoreur. Il y a des gens qui gagnent l'argent, mais le dévoreur vient. Tu gagnes l'argent, les pauvres viennent immédiatement et sont toujours plus grands que l'argent que tu as reçu. Ça, c'est le dévoreur. Il y a des gens, ils n'ont jamais de l'argent. Ils n'ont jamais une source de revenus qui est stable. Dieu veut ouvrir les écluses du ciel. Est-ce que tu as respecté la loi de la dîme pour le mettre à l'épreuve? Sinon, il faut aller te mettre en rien. Donnez et on vous donnera. Tu donnes quoi à qui? On vous donnera comme vous avez donné. Est-ce qu'honnêtement, Dieu t'a donné moins que tu ne donnes aux autres? Il y a peu de gens qui peuvent répondre oui à cette question. Qui va me dire ici que Dieu est moins généreux envers lui que lui n'est généreux envers son entourage? Or, c'est une formule mathématique. On vous donnera comme vous aurez donné. On utilisera pour vous bénir la même mesure que vous utilisez pour bénir les autres. C'est des formules mathématiques. On dit que le coefficient de votre prospérité est proportionnel au coefficient de votre générosité. Il n'y a rien à faire pour échapper à ça. C'est des lois de Dieu. Il n'y a pas de prière qui permet que quelqu'un ne donne rien à personne, que Dieu lui donne beaucoup. Ça n'existe pas. Je lisais un bon témoignage tout à l'heure d'un homme de Dieu qui disait qu'il était parti enseigner dans une église. C'est quelqu'un qui a un ministère d'enseignement itinérant. Donc Dieu l'appelle, comme certaines personnes, à aller d'église en église enseigner. Il ne devait pas avoir sa propre église. C'était le plan de Dieu pour sa vie. Il va dans une église, il enseigne tellement bien alors qu'il cherche depuis longtemps un grand pasteur que deux des fidèles de l'église se sont réunis. Ils ont commencé à s'accorder en prière pour prier afin que Dieu le fasse rester, qu'il devienne leur pasteur. Le gars est dans sa chambre et il se sent lourd, il se sent bizarre, il se sent comme s'il est sous une attaque spirituelle. Et il dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il prie en langue tout et tout, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Là, quand c'est quelqu'un qui connaît bien la voix du Saint-Esprit, il sait que ça là, c'est le signe que spirituellement il est attaqué. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu finit par lui dire, il y a des gens qui sont en train de faire de la sorcellerie contre toi. Une sorcellerie? Il dit oui. Il y a des gens qui sont en train de faire la sorcellerie contre toi. Moi, j'ai ma volonté pour ta vie, que tu sois un enseignant itinérant. Il y a des gens qui sont en train de prier pour que tu restes dans l'église. Priez, demandez la puissance de la parole pour faire ce qui n'est pas volonté de Dieu. C'est la sorcellerie, ce n'est pas de la foi. Dieu dit, il est en train de faire la sorcellerie contre toi. Il est parti, le voir, dit, est-ce que vous êtes en train de prier pour un pasteur, il dit, comment vous savez? Dieu vient de me le dire, qu'on fait la sorcellerie, comment ça? On est des chrétiens, bon Dieu, un bon pasteur, on est juste en prier. Dieu dit que c'est la sorcellerie. Vous êtes entré par le pouvoir de la parole, d'essayer de faire contre la volonté de Dieu. C'est de la sorcellerie, arrêtez-moi ça. Et c'est fini, il a retrouvé la paix, il a retrouvé sa puissance, il a enseigné chez eux, il est parti. C'est de la sorcellerie que de s'imaginer qu'on peut faire ce qu'on veut hors du plan de Dieu. On ne peut être béni que dans les lois de Dieu. Et la plupart des gens ne veulent pas s'inscrire dans les lois de Dieu. Je vais même vous dire ça, que quelqu'un l'écrive bien. Quand tu attends 100 000 de Dieu, il envoie toujours quelqu'un qui a un problème de 1000 francs. Et tu peux par exemple chercher 100 000. Tu as réuni 10 000, tu n'as pas trouvé les 90 000. Dieu t'envoie quelqu'un qui dit, j'ai besoin de 10 000, ma femme est malade, si je ne trouve pas 10 000, elle meurt. Et Dieu te regarde. Si tu dis, moi je veux 100 000, je n'ai pas encore l'argent, je te donne le peu, et le gars part, c'est fini pour toi, tu n'auras jamais les 100 000. Si tu lui donnes tous les 10 000, il ne sera pas parti que tu vas avoir rapidement les 100 000. C'est arrivé avec Élie et la veuve. C'est arrivé avec Élisée. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, qu'est-ce qui te reste? Ce n'est pas qu'est-ce que tu as parmi tant. Qu'est-ce qui te reste? Il ne me reste qu'un flacon d'huile. Donne tout. Verse tout. Partage. Et au fur et à mesure qu'il partage, sa bénédiction arrivait. Il te reste quoi? Juste une mesure de farine et d'huile. Je vais manger mon enfant, moi, en beurre. Il ne reste que ça. Le prophète ose dit, prépare-moi, je vais manger, on va voir pour toi après. Dieu va venir pour tester si vous êtes digne qu'il vous bénisse. Et comme c'est des lois, ce que tu donnes et le point auquel tu donnes détermine spirituellement le point auquel tu es digne d'être béni. Quand Dieu veut te bénir massivement, il t'offre une occasion de prouver que tu es capable toi aussi de bénir massivement. Si tu échoues le test, tu ne trouveras jamais ta bénédiction. Vous attendez grandement Dieu. Et puis j'ai remarqué une chose. Dieu ne vous enverra jamais des gens pour demander plus que vous n'avez. Si vous n'avez pas à manger, Dieu n'enverra jamais quelqu'un vous demander à manger. Si tu as une mesure de gari, il enverra quelqu'un qui vous a mangé ton gari avec toi. Jamais quelqu'un vous a demandé 10 000. Regardez bien. Quand Dieu envoie quelqu'un vers vous, la personne veut tout demander ce que vous avez. Parce que Dieu sait ce que vous avez. Si vous ne donnez pas ce que vous avez, et Dieu ne vous donnera pas ce que vous attendez. Parce qu'autrement, il ne ferait pas juste. On vous donnera comme vous donnez. On vous traitera comme vous traitez. Quand on connaît, c'est mathématique. Donc, si tu veux qu'on te traite bien les autres. Et c'est compliqué. Tu dis, si je donne que Dieu ne me donne pas, ça veut dire que tu n'es pas sûr de Dieu. Pourquoi tu pries alors? Si tu n'es pas sûr que Dieu peut être fidèle à sa parole, de te donner comme tu donnes, pourquoi tu veux croire qu'il est capable de te bénir parce qu'il a dit qu'il bénit? On ne peut pas croire quelqu'un à moitié. Dis-lui là, il est un demi-bandit, un demi-sérieux. Non, ou tu penses qu'il est un bandit, ou tu penses qu'il est sérieux. Si tu penses qu'il est bandit, ne va pas lui demander de t'aider. Si tu penses qu'il est sérieux et que tu veux qu'il t'aide, obéis aux consignes qu'il te donne. C'est ce que j'ai donné hier comme exemple sur le principe de l'autorité. Tu vas voir un docteur parce que tu es malade, c'est que tu crois qu'il est capable de te guérir. Il ne peut pas dire déshabille-toi, tu vas refuser. Il ne peut pas dire monte sur la table, tu vas refuser. Il ne peut pas dire prends un comprimé, tu vas refuser. Il ne peut pas dire bois de l'eau, tu vas refuser. Quand tu vas voir quelqu'un qui peut te guérir, il ne peut te guérir que si tu te soumets à lui, que tu obéis à tous les commandements qu'il te donne. Tu vas chez un docteur, il veut t'ausculter, tu dis moi je ne peux pas me déshabiller. Il ne peut pas te guérir. Ou bien tu te déshabilles, tu fais une ordonnance, tu mets ça à la poubelle, bon. Il ne peut pas te bénir. Pour voir le pouvoir de quelqu'un s'exercer dans ta vie, même s'il lui veut, il faut que tu te soumettes à ce qu'il t'a dit. On l'a vu avec Naaman et le prophète. On dit va te laver, il ne veut pas obéir. Tant qu'il n'aura pas fait ce que le prophète a dit, il aura eu sa lèpre. Il a suffi bêtement d'aller faire ce qu'on lui a demandé de faire et il a vu la bénédiction. Vous ne pouvez pas compter sur Dieu en faisant tout sauf faire ce que Dieu dit de faire. C'est de la sorcellerie. Arrêtez de faire des prières de sorciers. J'ai trop aimé ce témoignage-là. Dieu appelle ça de la sorcellerie. C'est comme si dans la nuit, au jardin de Gethsémané, quelqu'un se mettait à prier pour que Jésus refuse d'aller à la croix. Jésus, quand ils ont dit, ah, tu n'iras pas, personne ne te tuera. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est pas ça qu'il a dit à Pierre. Arrière de moi, Satan. Le gars veut empêcher qu'il meure, dit Satan. Parce qu'il faut être Satan, quelle que soit la beauté apparente de l'acte qu'on pose, pour vouloir faire des choses contraires au plan de Dieu. Si vous voulez être béni, obéissez aux lois de Dieu sur la prospérité. On en parlera dimanche. Une autre question. Oui?
Je me pose une question. Comment on peut savoir qu'on est béni dans le plan de Dieu?
Qu'on est
béni précisément dans le plan de Dieu.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que quoi? Il y a certaines choses. Bon. Je dirais. Bon, puis tout part, lui qui nous fortifie. Mais il y a certaines choses qu'on pense que c'est nous-mêmes qui les faisons. Et on se voit béni par rapport à ça. Sachant que ce n'est pas forcément dans le plan de Dieu. Et sachant que ce n'est pas.
Alors, j'ai compris. Il y a plusieurs réponses à votre question. D'abord, il faut faire la différence. Il y a trois choses différentes. Il y a le mal, il y a le bien et il y a la vie, c'est-à-dire le plan parfait de Dieu. La volonté permissive de Dieu est toujours différente de la volonté de Dieu. Ismaël, c'est une volonté permissive de Dieu. Dieu aurait pu empêcher Abraham d'avoir Ismaël. Il ne l'a pas empêché, mais ce n'était pas ça son plan pour Abraham. Beaucoup de gens font des Ismaël dans leur vie au lieu d'attendre patiemment le Isaac. Dieu étant miséricordieux, Ismaël n'empêche pas Dieu d'honorer sa promesse de donner Isaac. Mais cela crée beaucoup de chagrin jusqu'aujourd'hui à Abraham. De devoir chasser Isaac, de devoir chasser sa maman, de devoir avoir deux frères qui se battent, de devoir avoir deux parties du monde aujourd'hui qui sont en conflit, c'est les conséquences de l'impatience d'Abraham qui a voulu aider Dieu à le bénir au lieu d'attendre patiemment que la vraie bénédiction promise par Dieu arrive. Et en général, Dieu dit qu'à celui auquel il donne beaucoup, il réclame beaucoup. Dieu, avant de vous juger sur ces choses-là, s'assure toujours que vous sachiez clairement à quoi il vous a appelé, qu'est-ce qu'il vous a destiné. Par des prophéties, par des révélations, par différentes manières, Dieu sait nous convaincre le moment venu de quel est son plan pour nous. Et n'oubliez pas, ceux qui n'étaient pas là, cherchaient à écouter la bibliothèque numérique, on a fait un séminaire sur comment entendre et reconnaître la voix de Dieu. Cherchez à prendre copie de ce séminaire-là. L'une des choses qui nous assure que c'est Dieu qui nous parle, c'est la paix du Saint-Esprit dans notre cœur. La sérénité, l'assurance, la Bible nous dit que la paix du Saint-Esprit est l'arbitre de Dieu dans notre cœur. Quand c'est vraiment Dieu qui vous donne quelque chose, vous le sentez. Vous avez une paix, une assurance qui ne vient que du Saint-Esprit, que vous êtes sur le bon chemin. De la même manière, quand vous voulez faire quelque chose qui n'est pas vraiment le plan de Dieu, le Saint-Esprit vous convainc de péché. Quelque chose au fond de vous-même vous montre que ça là, tu es en train de vouloir aider Dieu. Ce n'est pas grave, mais ça, ce n'est pas à Dieu qui est en train de faire ça. Si vous n'en êtes pas sûr, demandez-lui. Seigneur, si ce n'est pas toi, ferme-moi cette porte-là. Si c'est toi, qu'elle reste ouverte. Si Dieu ne vous avait pas parlé clairement, il va fermer cette porte-là, ou en tout cas, il va vous donner un signe. Mais attention, rappelez-vous l'histoire de Balak et Balaam. Si Dieu t'a dit une fois non, tu as dit deux fois, il t'a dit non. La troisième fois, tu es tellement cupide, tu dis, Seigneur, si ce n'est vraiment pas toi, fais encore tel signe. Il va te faire comme avec Balaam, il dit, ok, vas-y. Ou bien, ça me l'a fait, non? Il dit, on le maudit parce que j'ai béni. Le prophète dit, d'accord. Quand on augmente l'argent qu'on lui propose, il revient devant Dieu pour dire, Dieu, tu es sûr qu'on ne va pas les bénir? Dieu dit non. Il dit d'accord. Le gars lui propose encore plus d'argent. Il a le culot de revenir encore devant Dieu pour dire, tu es vraiment sûr que je ne peux pas les bénir exceptionnellement, les maudits exceptionnellement? Dieu dit, ok, maudis-les. Et le même prend son chemin vers les maudits. Et l'ange de Dieu l'attend sur le chemin pour le tuer. Parce que Dieu n'est pas un jouet. Quand Dieu t'a parlé et qu'il est sûr que tu as compris, c'est de la foutaise que de revenir lui poser la question. Parce que Dieu ne change pas. Une fois, il peut le tolérer. Deux fois, il peut le tolérer. Mais à un certain moment, Dieu va te faire de l'ironie. Tu as dit, ah bon, non? D'accord, vas-y. Et tu as dit, oui, mais Dieu m'a dit d'y aller. Il t'a dit d'y aller. Rappelle-toi toujours Balaam. Donc, nous devons apprendre à attendre que Dieu se manifeste. Et quand nous voulons faire ce qui ne vient pas de Dieu, surtout si nous sommes souvent connectés avec le Saint-Esprit, nous avons une conviction que ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais nous sommes tellement pressés d'être bénis que nous essayons d'aider Dieu. Quand Dieu promet de te bénir, tu n'as pas besoin de l'aider. Et s'il a besoin de ton aide, il te le dira. Ce n'est pas souvent le cas. Et dans tous les cas, au-delà des paroles que Dieu peut te donner, il faut toujours revenir à la parole de Dieu, à la Bible, pour voir ce que vous êtes en train de faire est cohérent avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas, par exemple, te demander d'aller voler quelqu'un et que ce soit le moyen qu'il a prévu pour te bénir, sous prétexte que Dieu permettra aux païens d'amasser pour vous bénir. Non, il permettra aux païens d'amasser de vous le donner. Il ne vous permettra pas d'aller voler les païens. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de vol. On ne peut pas dire, j'ai volé parce que Dieu avait dit qu'il permettrait aux païens d'amasser pour me bénir. Comme lui, c'est pas un chrétien, j'ai volé, c'est légitime. C'est du vol, le vol, c'est le vol. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un dans la Bible voler le bien de quelqu'un parce qu'il n'était pas un juif. Non. Non, quand tu connais la parole de Dieu, il y a des choses que Satan va te dire, tu vas dire, ne te moque pas de moi. Ça là ne vient pas de Dieu. Mais une fois encore, pour savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, comment voulez-vous discerner le faux du vrai si vous ne connaissez pas le vrai? C'est toujours la même chose. Plus on connaît quelqu'un, plus on sait si c'est lui ou pas. Si mon épouse m'appelle maintenant, sans que je regarde l'afficheur, dès que j'entends sa voix, même si je suis en train de dormir, je sais que c'est elle. Mais quand on s'est rencontré, c'est sûr qu'elle peut appeler, je lui ai dit c'est qui? Quand tu ne connais pas quelqu'un, mais tu découvres quelqu'un en affaire, il appelle, tu ne regardes pas l'afficheur, tu vas dire c'est qui? Mais tu peux pas être en relation avec quelqu'un depuis un an, et même en dormant, tu vas décrocher, tu vas dire c'est qui? C'est même injurieux à un certain moment que de ne pas pouvoir reconnaître qui c'est sans regarder l'afficheur. C'est pas vrai. Dieu dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Si c'est vraiment ton maître, et que tu marches vraiment avec lui, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour savoir quand il a parlé, quand il n'a pas parlé. Mais si ce n'est pas ton maître, que tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, et de temps en temps tu viens à l'église pour faire seulement des chrétiens, c'est-à-dire que tu ne le connais pas, ça veut dire qu'il ne te connaît peut-être pas aussi. Là, tu dois demander à tout le temps, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a parlé. Quelqu'un parle au téléphone, tu demandes à tes amis, écoute pour voir si c'est la voix de mon père. Ton père, et moi je vais te dire c'est sa voix. Non, ce n'est pas ton père. Ou bien, c'est pareil. Alors nous allons avancer un peu. Nous avions commencé hier à parler un peu d'avoir un peu l'esprit marketing dans l'évangélisation. Je ne dis pas qu'il faille ramener l'évangélisation du technique. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est le Saint-Esprit qui conçoit, qui orchestre, qui manage l'évangile. C'est lui qui convainc les gens. Nous ne sommes que des cueilleurs, nous sommes des moissonneurs des âmes. Celui qui les fait mûrir, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. N'empêche, Dieu nous a donné une sagesse et il veut que nous utilisions cette sagesse. N'oubliez pas une chose, et j'aime beaucoup ce verset depuis que je l'ai bien compris. La capacité de Dieu commence là où s'arrête la nôtre. Si ma capacité s'arrête là, quand on dit que la capacité de Dieu commence là où s'arrête la mienne, si moi je suis ici, ma capacité s'arrête là, Dieu dit que lui commence là. On n'a pas dit que la capacité de Dieu se poursuit là où s'arrête la nôtre. C'est français. Quand on lisait la Bible, faites attention aux mots. La Bible ne dit pas que la capacité de Dieu se poursuit là où s'arrête la nôtre. Si la Bible avait dit que la capacité de Dieu se poursuit là où s'arrête la nôtre, cela voudrait dire que la capacité de Dieu commence avec nous au début, mais même quand nous sommes fatigués, lui continue. Ou bien, Mais la Bible dit que la capacité de Dieu commence là où ça reste la nôtre. Ça veut dire que là où il y a ta capacité, Dieu ne bouge pas. Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Tu vois quelqu'un qui a faim. Tu as largement de quoi le nourrir. Il vient dire, mon frère, j'ai faim. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus pour que Dieu lui donne de la nourriture. La Bible dit qu'il faut lui donner à manger. Parce qu'il est dans ta capacité de le nourrir. Tu ne peux pas prier pour demander à Dieu de le nourrir. Tu es un instrument de Dieu. Dieu t'a déjà donné de quoi le nourrir. Pour le gars là, il dira Dieu m'a nourri. Quand il ira voir un frère chrétien qui va le nourrir, il dira Dieu est grand. Il a mis à cœur à un frère chrétien de me nourrir. Si le frère chrétien auquel Dieu a donné les moyens de le nourrir, il vient le frère dit, bon, on va prier Dieu pour qu'il te donne à manger. Alors, son frisée est plein de nourriture. Au nom de Jésus, Père, je te confie ton frère, je te confie ton enfant, il a faim, il n'a pas de quoi manger. Ne regarde pas mon frigidaire. Donne-lui directement dans sa maison de quoi manger. Dieu va dire, ce petit-là n'est pas sérieux. Ou bien, mais est-ce que vous êtes d'accord que nous faisons souvent ça? Vous êtes d'accord que nous faisons souvent ça? Alors que Dieu nous a donné largement de quoi régler les problèmes des gens, nous refusons de risquer ce que nous avons pour régler leurs problèmes et nous demandons à Dieu de le régler. Dieu dit que sa capacité commence là où s'arrête la vôtre. Ne demandez jamais à Dieu de faire ce qu'il vous a donné les moyens de faire. Ton enfant fait une bêtise. Tu vois que c'est mauvais. Tu peux le reprendre et dire que c'est mauvais. Tu fais comme Élie, tu ne lui dis rien. Tu dis, Seigneur, convainc-le que c'est mauvais. Tu es un irresponsable. Dieu ne lui le convaincra pas que c'est mauvais. Si toi-même, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu l'as sanctionné, tu lui as parlé, tu as tout fait, ça ne marche pas. Et tu pries pour le Seigneur, il a le cœur endurci. Fais la différence dans ton cœur. Convainc-le de péché. Ramène-le à toi. D'accord, toi, tu as fait tout ce que tu pouvais humainement. Tu confies maintenant à Dieu de le convaincre puisque toi, tu as tout fait, il est en train d'être têtu. Mais ton enfant se prostitue. Tu n'as pas le courage de lui dire que c'est mauvais parce que quand elle se prostitue, elle amène à manger pour tout le monde. Tu dis, Seigneur, comme elle se prostitue, ce n'est pas bon. Si moi je lui dis, elle va se fâcher. Convainc-la que la prostitution est mauvaise. Dieu ne la convaincra pas. Parce que là, elle est dans le domaine de ta capacité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cette raison qu'un paresseux ne peut pas être béni par Dieu. Il dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Il faut que vos mains travaillent. Finis, je fais ce que vous pouvez faire pour que Dieu amène maintenant la bénédiction qui transforme ça en récolte. Quand dans ta capacité, tu n'as rien fait, tu n'as pas été au champ, tu n'as pas labouré. À quoi ça sert que Dieu envoie la pluie? Vous n'avez jamais vu Dieu labourer pour un paysan? Il envoie la pluie aux paysans qui ont labouré afin qu'ils aient une bonne récolte. Mais Dieu ne viendra pas labourer à ta place. Il y a des gens qui ont des prières concernant à dire Dieu, viens labourer. Dieu ne laboure pas. Il bénit ton labour. C'est pareil pour l'évangélisation. La Bible nous dit clairement, les gens ne peuvent pas suivre Jésus s'ils ne le connaissent pas. Il ne peut pas le connaître si on ne le leur montre pas. Mais on ne peut pas le leur montrer si quelqu'un ne va pas leur enseigner l'évangile. Dieu a besoin que vous enseignez aux gens l'évangile, que vous partagez avec les gens les témoignages de la parole de Dieu pour que lui les convainque. Donner aux gens la parole de Dieu, c'est mettre Dieu en eux parce que Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu, quand il rentre dans les gens, il peut y travailler. Mais Dieu ne peut pas travailler sur quelqu'un qui n'a jamais reçu la parole. Quand Dieu veut vous parler, souvent il vous parle avec la parole que vous connaissez. Si tu n'as jamais entendu dire que tu ne voleras pas, le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre de pécher sur le vol. Depuis que tu es né, on t'a jamais dit qu'on ne vole pas. Tu peux être en train de voler, le Saint-Esprit te dit que c'est mauvais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de péché sans la loi. C'est la loi qui crée le péché. C'est la loi qui crée le péché. Dieu dit, je veux les convaincre. Mais pour que je les convainque, il faut qu'ils aient entendu l'évangile. Moi, je ferai le travail d'évangile dans leur cœur. Mais donnez-leur l'évangile. On ne peut pas leur donner l'évangile si quelqu'un ne va pas leur apporter l'évangile. Donc Dieu dit, je vais faire ma part. J'ai besoin que vous fassiez la vôtre pour m'aider. C'est l'un des rares domaines où Dieu a besoin de nous. Si quelqu'un frime sur Dieu là, je ne vois pas là où est-ce qu'il va servir Dieu. Parce qu'à part ça, Dieu n'a besoin de vous nulle part. Vous devez faire toute votre part avant de confier les gens au Saint-Esprit. Et donc notre part, ça implique la mise en œuvre de toutes les capacités que Dieu nous a données, bien entendu dans l'humilité de savoir que c'est Dieu le maître, et dans le respect de la cohérence avec la parole de Dieu. Tous les moyens ne sont pas bons pour gagner des âmes. C'est aussi l'une des erreurs que nous faisons souvent en tant que chrétiens, je l'ai fait aussi. Quand on vient au Seigneur, on est tellement zélé pour vouloir faire la volonté de Dieu qu'on fait le bien. Je parlais tout à l'heure, il y a le mal, il y a le bien, et il y a la volonté parfaite de Dieu. Le monde essaie de faire le bien. Otarine, Will, Lyon, c'est le bien. On va donner des biscuits aux gens, on va donner des moustiquaires, on va donner des sacs de riz, il y a des problèmes philippines, on envoie des choses, c'est bien. Mais ça n'a jamais réglé les problèmes du monde. Est-ce que vous avez jamais vu l'humanité régler des problèmes? L'humanité vient entretenir les gens dans les problèmes. L'aide au développement, ça n'a jamais sauvé l'Afrique, un pays. C'est du bien. Dieu ne nous appelle pas à faire le bien. Le bien, c'est pour les païens. Le bien, c'est le mieux que les païens puissent faire. Dieu nous a dit de ne pas manger du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc, là où il y a le bien et le mal, là, Dieu met ça dans le même panier et dit ne touchez pas. Il nous dit de manger de l'arbre de la vie. Un chrétien n'a pas vocation à aller donner des bonbons aux gens. Ce n'est pas que s'il peut donner, ce n'est pas mauvais. Il faut le donner. Des moustiquaires, bon, si quelqu'un prend un moustiquaire lui donner, c'est bon. Mais le chrétien ne peut pas partir, utiliser toute son énergie pour aller donner des biens aux gens. Le chrétien est le roi qui a vocation à aller donner aux gens la vie. Les gens sont opprimés. Tu leur donnes la parole. Toute leur vie change. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que l'humanité peut faire pour prendre un pauvre et lui donner la force, les énergies, les ressources, l'esprit pour transformer sa vie? Quelle humanité peut prendre quelqu'un dans la boue et l'asseoir à la table des rois? Quelle humanité peut prendre David et en faire le roi qu'il a été? Prendre Jacob et en faire celui qu'il a été? Prendre Joseph et en faire le premier ministre d'Égypte? Quelle stratégie, quel bien, quelle aide sociale, quel orphelinat peut faire ça? Le bien, c'est pour le monde. La vie, c'est pour les chrétiens. Nous avons vocation à racheter des âmes et à leur donner la vie en abondance. Quand tu prends quelqu'un, tu lui apprends à parler à Dieu. Il prend possession de ce qu'il veut. Il commande à la création. Il cherche sa maladie. Il appelle la prospérité. Il met la joie. Il témoigne de l'amour. Il n'a pas besoin d'humanitaire. Le vrai chrétien, c'est un homme de foi. C'est un homme de miracle. Il règle les problèmes des gens par la parole de Dieu, par la foi, par la puissance. Des gens peuvent présenter des problèmes. Tu viens, tu as une seule révélation, tu leur donnes, toute leur vie change. Le lion, ça ne peut pas faire ça. Pendant combien de jours les gens vont manger ce qu'on leur donne en humanité? Je ne dis pas de ne pas faire d'humanité. Hein. C'est le bas de gamme du bien. C'est comme les droits de l'homme. C'est des foutaises. Pourquoi pas que plus on parle de droits de l'homme, plus l'homme est maltraité? Que plus on parle de démocratie, plus il y a de la dictature? C'est des paillots de la vie. Les droits de l'homme, là, c'est de la piraterie de la vie. Celui qui obéit à Dieu a dépassé de loin les droits de l'homme. Il est dans les devoirs par rapport à Dieu. L'homme ne peut pas être sauvé parce qu'il a des droits. Il ne peut être sauvé que parce que son frère craint Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu ne peut rien craindre, ne peut rien aimer. Vous ne voyez pas que depuis qu'on parle de ces choses-là, le monde va de mal en pis. C'est naïf que de quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est des montages humains pour régler les problèmes. Alors que Dieu a déjà mis ce qui donne la vie en abondance. Les gens se contentent des miettes, se contentent des contrefaçons de la bénédiction, au lieu d'aller à la bénédiction. Regardez une bêtise comme l'émancipation des femmes. C'est pour maltraiter les femmes. Elles ne sont pas plus malheureuses aujourd'hui. Vous ne pouvez pas que le moment était plus heureux que nos femmes? Ou bien, le moment n'était pas plus heureux que nos femmes? Et nos soeurs sont encore plus malheureuses à la lutte, c'est parti. Vous n'êtes pas appelé à faire du bien. J'ai fait moi-même cette erreur. Quand vous parlez avec tous les grands hommes de Dieu, ils commencent toujours comme ça. On veut faire des choses, on veut créer des choses. À un moment, Dieu dit, calme ce petit, je ne t'ai pas demandé ça. Vos œuvres là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je t'ai demandé d'aller donner aux gens la vie. Prends les gens, lève-les. Prends les gens, éclaire-les. Prends les gens, donne-leur la parole. Ma parole est une épée à double tranchant. Elle s'occupe de tout. Quand je sors ma parole, arrête tous les problèmes. Ne t'occupe pas des bêtises. Donne ma parole et fous le camp. Manifeste mes dons et fous le camp. Je ne t'ai pas demandé d'aller donner des moustiquaires. Si quelqu'un a des moustiques, tu as des moustiquaires, tu peux donner, ce n'est pas mauvais. Mais ne pas toi, ta vie essayer de donner beaucoup de moustiquaires, ce n'est pas ça que je t'appelle. Parce qu'après les moustiques, ils ont d'autres problèmes. Avec la parole de Dieu, vous transformez une vie tout entière. Ça veut dire ce que je veux dire. Quand vous passez votre vie à donner aux gens la connaissance de Dieu, la capacité à marcher avec Dieu, vous l'avez tout donné. Et généralement, ils vont avoir plus que vous. Ils vont vous dépasser. J'espère que vous en êtes conscient, que vous êtes content. Sinon, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, vous a donné la capacité de faire plus que lui. Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas que les vrais hommes de Dieu aujourd'hui font plus que Jésus, font plus de miracles que Jésus, impactent plus de gens que Jésus? Jésus, dans une localité, devait marcher, il pouvait faire combien de choses? Aujourd'hui, les gens sont à la télé, ils parlent à des millions de personnes. Ils ont des livres via Internet. Moi, je fais de mon bureau parler à 10 000 personnes. Jésus ne pouvait pas faire ça. Je peux appuyer sur un bouton et 1000 personnes me lisent, 10 000 personnes me lisent, 20 000 personnes me lisent. Jésus n'avait pas ce luxe-là. Nous pouvons faire aujourd'hui beaucoup plus que Jésus. Et il nous en a donné le pouvoir. Allez, faites tout ce que j'ai fait et encore plus. Si vous en êtes encore au niveau d'être choqué, de faire venir quelqu'un au Seigneur qui vous dépasse, allez vous repentir. Vous êtes loin d'être un enfant de Dieu. Vous n'êtes qu'un jaloux encore. Et ça fait partie des choses que Dieu a en horreur. Et moi, par exemple, c'est Hermione qui m'a amené au Seigneur. Elle était au Seigneur peut-être 10 ans avant de m'amener au Seigneur. Mais 3 ans après, dans mon domaine, je l'ai battue de loin. Mais Dieu l'a récompensée parce que ce qu'elle a semé, elle a récolté plus qu'en abondance. N'ayez pas peur de semer des gens qui vont vous dépasser parce que Dieu va les utiliser pour vous bénir. Vous prenez des gens comme Carambéry. Ils ont pris des petits voyous qui sont aujourd'hui des milliardaires. Lui-même, il n'est pas milliardaire, mais il ne manque de rien parce que quand tes enfants sont milliardaires, tu es déjà milliardaire. Si tes enfants sont milliardaires, bien éduqués, ils pourvoient tous tes besoins. Tu n'as même pas besoin de gérer l'argent. Tu veux quelque chose, tu cliques des doigts, ça s'accomplit. Si vous en êtes encore au niveau d'avoir peur d'avoir des enfants spirituels, d'amener des gens sérieux qui vous dépassent, franchement, il faut aller parler avec Dieu. C'est le béaba de l'amour. C'est ça l'amour. Il dit, même si vous mourrez en martyr, et ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. Si vous gagnez des âmes juste pour jouer le chrétien, ça ne sert à rien. La motivation d'une vie chrétienne, le premier vecteur d'une vie chrétienne, le premier moteur d'une vie chrétienne, c'est l'amour. Amour. Aimer, sans condition. Aimer, vouloir le bien des gens. Aimer, être prêt à tout pour qu'ils soient heureux. Évangéliser, c'est accepter de risquer sa vie pour que quelqu'un aille au ciel. C'est un acte suprême d'amour. Et parfois, c'est la personne-là qui va vous inciter, qui va vous critiquer, qui va se moquer de vous. Mais quand vous l'aimez, vous dites que ce n'est pas grave. Ce n'est pas que vous allez forcer. Il ne faut pas forcer quelqu'un. Mais au moins, dans votre cœur, vous priez pour qu'un jour, il vienne au Seigneur. Écoutez, si vous allez par exemple à la maternité, que vous regardez comment les femmes enceintes en travail, là, giflent, tapent, cognent, poignardent les sages-femmes, si elle va dire, ok, garde ton enfant, après si tu peux tout seul, il y aurait beaucoup de morts. Hein? Mais quelle femme enceinte ne va pas insulter la sage-femme qui est en train de l'accoucher? Et quand elle a un peu un problème, il ne va pas la gifler. Il ne va pas lui donner des coups. Il ne va pas la maudire. Mais si jamais elle dit, ok, tant pis pour toi, tu es foutu. Quel enfant adolescent n'a pas fait le chagrin de ses parents? En leur créant des soucis. C'est une règle de la vie. Quand vous voulez faire grandir des gens, ils sont les premiers que Satan utilise pour vous attaquer. Pourquoi? Satan veut que vous ne les bénissiez pas. Et donc, il essaie de faire en sorte qu'ils fassent des choses qui vont vous énerver et qu'étant énervé, vous décidez de les laisser tomber. Quand vous les laissez tomber, Satan dit, bon, maintenant, problème réglé, voilà un de moins. Faites bien attention. Quand vous décidez en tant que chrétien d'impacter la vie de quelqu'un, Satan va parfois l'utiliser pour vous offenser. Sachant que si vous êtes offensé et que vous n'avez pas la vertu cardinale du chrétien, l'amour, vous allez décider de le laisser tomber. Dès que vous le laissez tomber, Satan règle son problème. Vous voulez arracher quelqu'un à Satan. Vous croyez que Satan est content? Jésus dit qu'on ne peut pas venir dans la maison d'un homme fort et penser qu'il lui appartient sans le lier. Vous voulez prendre une âme dans le monde. Vous voulez voler une âme à Satan. Vous croyez que Satan va dormir? Parfois, il y a des gens qui vont vous créer des grands problèmes parce que Satan sait que eux-là, si vous laissez être en paix avec eux, les sauver, il a perdu quelqu'un qui devait être un général dans son armée. Faites attention. C'est pour ça que j'ai publié, je crois, hier, une phrase de Joyce Meyer que j'aime bien. Il dit, les gens ont le plus besoin d'amour quand ils le méritent le moins. Les gens ont le plus besoin d'amour quand ils le méritent le moins. Et comme le dit Jésus, si vous aimez quelqu'un parce qu'il vous aime, vous n'avez aucun mérite. Le plus grand de l'amour, le plus noble de l'amour, c'est d'aimer quelqu'un qui ne le mérite pas. Sinon, ce n'est plus de l'amour, c'est un jeu d'intérêt. Vous voyez que Jésus a regardé si on méritait qu'il meure à la croix pour nous. Franchement, il ne serait jamais passé à la croix. Hein? Il ne va même pas trouver une seule raison sur 1 milliard de mourir à la croix pour nous. Mais il est mort à la croix pour nous d'abord. Il nous a aimés le premier. Vous devez aimer les gens. On n'a pas besoin, c'est pas l'amour dont nous parlons n'est pas un amour de sentiment. C'est quasiment un amour de loi. Leur vouloir du bien. Être heureux qu'ils soient heureux. Être content pour eux. Prier pour eux. C'est-à-dire vouloir leur bien. Vous pouvez ne pas porter de. Vous pouvez ne pas avoir une grande sympathie pour quelqu'un. Mais vous devez l'aimer. L'amour dont on parle avec Dieu là, ce n'est pas l'amour de je suis passionné, j'aime passer toute la journée avec lui. C'est quasiment une loi mécanique qui vous oblige à vouloir le bien des gens, à travailler pour le bien des gens, à souhaiter leur bonheur et à désirer seulement leur bonheur, à être prêt à tout pour qu'ils soient heureux. Pas devoir, pas obéissance à Dieu. Et pour être motivé pour l'évangile, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, imaginez-le en enfer. Et peut-être qu'il faut que vous preniez le temps de faire un peu de recherche sur l'enfer pour savoir de quoi je parle. Si vous saviez ce qu'est l'enfer, vous ne pourriez même pas imaginer qu'un soeur de votre pied. Si on vous dit que votre pied ennemi va aller là-bas, vous avez dit pardon, n'envoyez pas là-bas, faites autre chose, mais pas ça. Si vous saviez ce qu'est l'enfer, vous ne pouvez pas avoir un frère, une soeur qui n'est pas né de nouveau et vous en foutre. Parce que quand vous le voyez debout là, vous voyez déjà un gars qui est en train de souffrir pour l'éternité en enfer. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez même plus dormir en paix tant qu'il n'est pas né de nouveau. Vous devez entrer dans les douleurs de l'enfantement, intercéder, prier pour qu'il soit nouveau. Si vous avez pris un conjoint qui n'est pas né de nouveau, vous dites que vous l'aimez. Vous vivez avec un gars qui est un prisonnier de l'enfer. Vous dites que vous l'aimez. Vous êtes marié. Vous ne pouvez pas dormir. En sachant que celui avec qui vous dormez tous les jours, là, faites un candidat certifié, là-dedans, le parfum de l'enfer. Si vous lui faites faire de la sainteté spirituelle, il est parti en enfer. À quoi ça sert de vivre une vie de bonheur avec quelqu'un en sachant que lui va en enfer? C'est pas ce que c'est. Donc, pour y arriver, étant donné que notre capacité doit entrer en ligne de compte, nous allons rapidement parcourir, quand on fait du marketing par exemple, c'est-à-dire qu'on veut persuader les gens de quelque chose, il y a au moins quatre éléments qu'on doit regarder. Le produit, le prix, la place et la promotion. De quoi s'agit-il? On part du principe que quelqu'un ne va adhérer à quelque chose. Parce que le marketing, ce n'est pas que le fait de vendre pour avoir de l'argent. C'est le fait de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Le marketing, c'est une guerre spirituelle en réalité. Le marketing, c'est une guerre qui se joue dans l'esprit des gens. Il s'agit de persuader des gens dans leur cœur que ce qu'on leur propose est rentable pour eux. Les gens vont faire quelque chose quand ils sont convaincus qu'il est dans leur intérêt de le faire. Ils ne feront pas quelque chose quand ils sont convaincus que ce n'est pas dans leur intérêt de le faire. Le rôle du marketing, c'est une guerre psychologique, une guerre spirituelle qui vise à convaincre les gens qu'il est dans leur intérêt de faire ce que vous voulez qu'ils fassent, en caricature. Que ce soit militaire, social, développement, ou commercial, ou politique pour gagner une élection, c'est la même règle. Quand les gens pensent qu'il est dans leur intérêt de faire quelque chose, ils le font. La question, c'est comment vous faites pour que les gens qui ne sont pas encore au Seigneur comprennent que c'est vital pour eux, que c'est dans leur intérêt de venir au Seigneur. Les gens vont décider cela à faire quatre variables. Je vais peut-être donner un petit exemple pour le montrer. On ne commence pas par faire variable, il faut passer à l'envers. Je donne un exemple. Je veux prendre l'argent de quelqu'un. Ou bien plutôt, je suis par exemple une femme, je veux faire plaisir à mon mari. C'est parce que j'ai une faveur à lui demander. Je dois me demander, qu'est-ce que je peux faire qui lui ferait plaisir? Et qui va lui faire tellement plaisir que si je lui demande quelque chose, il ne peut pas refuser. C'est la première question que je vais me poser. Et pour répondre à cette question, je dois tenir compte de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il aime? Si par exemple, moi j'aime les téléphones haut de gamme ou bien les ordinateurs, j'ai envie de faire, par exemple, si c'est une femme peut-être, moi j'aime des bijoux. Et j'ai envie de faire plaisir à mon mari pour qu'il me fasse une faveur. Je vais acheter un bijou, un bracelet en or, je lui offre. Bon, si c'est les gars qui sont tout le temps en train de faire comme des femmelettes là, peut-être. Mais il est peu probable que la meilleure manière de faire plaisir à un garçon ou à un homme soit de lui offrir une gourmette en or. Peut-être qu'il veut offrir le dernier téléphone, il faut lui offrir l'ordinateur, il faut lui offrir un habit. Tu connais ton mari, tu sais ce qu'il aime. Si tu veux faire plaisir à quelqu'un, la première chose, c'est de te demander à quoi il est sensible. Qu'est-ce qu'il aime? Pour faire plaisir à quelqu'un, il faut lui donner ce qu'il aime, pas ce qu'on aime. Quand tu veux faire un cadeau d'anniversaire, quelqu'un ne te demande pas qu'est-ce que. On dit, bon, qu'est-ce que je vais lui acheter maintenant? Et on commence à voir ce qu'on aime. Non. Il faut se mettre à sa place. Qu'est-ce que lui, il aime? C'est son anniversaire. Cela vous permet de savoir à quoi le client est sensible. Quand vous savez à quoi le client est sensible, il s'agit maintenant de lui donner de produire ce à quoi elle est sensible. Supposons que c'est une femme, elle veut faire plaisir à son mari, elle sait que bon, il aime bien manger un yam pilé avec la bonne sauce d'arachide, par exemple. Elle doit aller au marché, acheter l'yam, acheter des arachides, acheter tout ce qu'il faut pour faire la sauce. Préparer la sauce, c'est la première chose, avec l'yam. Deuxième chose, d'accord? Elle doit produire donc l'yam. Bien tendre, bien chaud, la bonne sauce, tout ce qu'il faut. La bonne viande, si je n'aime pas le poulet que j'aime, par exemple, la goutille, elle va mettre la goutille plutôt que du poulet, ainsi de suite. Tu dois faire en sorte que le bouquet, le package que tu m'offres, soit ce qui me réjouit le plus. Première chose. Deuxième chose, tu me le proposes à quel prix? Si je reste dans mon exemple de la nourriture, c'est dimanche, la femme veut faire plaisir à son mari. Imagine, tu fais le truc, tu sais, par exemple, je sais pas, moi je n'aime pas le football particulièrement, mais tu sais, par exemple, qu'il y a un match du Real comme, contre Barcelone, par exemple. Et le match est à 19h. Tu attends l'heure du match, alors que tu sais que ton mari, quand c'est match de football, il est pire qu'un idiot, ne connaît plus rien d'autre. Tu attends 19h, tu piles l'yam. Au moment où il est devant ce match, tu dis, mon chéri, j'ai fait des liens, puis il vient manger. Il va te regarder. Il va te regarder. Parce que le prix que tu lui demandes de payer pour ce cadeau-là est trop. Lui demander de laisser le match de football pour le plaisir du repas, il va te dire, on va tout à l'heure, tu vas être frustré. Ce n'est pas sa faute. Tu sais qu'il a match. Tu sais que pour lui, le match, c'est quelque chose d'important. Tu ne peux pas lui demander de payer comme prix de laisser son match pour pouvoir manger ce que tu as préparé. Tu ne peux pas lui demander de se lever à 5h du matin pour manger un yam pilé. Donc il doit laisser son sommeil pour que tu puisses lui faire plaisir. Non. Il y a des gens comme ça. Bon. Donc, quel est le prix que tu demandes aux gens de payer? Ensuite, la place. Regardez bien dans nos maisons. Quand les mamans, en tout cas une maman bien civilisée, bien éduquée, quand elle fait à manger, surtout les dimanches, au-delà de la nourriture, elle prend un soin particulier à mettre la table, à présenter la nourriture. Elle perd parfois plus de temps à présenter, surtout tous les trucs comme les ordres de vie qu'on sort, à présenter la nourriture qu'à le préparer. Parce qu'elle sait que pour faire plaisir à quelqu'un, tu me fais de lien pilé dans un plat sale avec plein de mouches autour, avec de la saleté, avec de la boue et qu'on sort, je peux ne pas manger carrément. Ou même si je mange, ce ne sera jamais comme si c'était une bonne table bien dressée avec des couleurs, avec des couverts et que je sens que vraiment c'est un endroit agréable. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des restaurants où tu manges la même chose à 20 000, alors que dans d'autres restaurants, tu le manges à 1 500. Parce que le confort pendant qu'on mange, la qualité de la présentation, là où on m'invite à manger, détermine. J'étais à des endroits, on m'a dit, viens, on mange un yam pilé, c'était. Quand je suis parti voir l'endroit mal fameux que c'était, je lui ai dit que je n'ai pas fait. J'aime bien l'yam pilé, mais je ne suis pas prêt à manger l'yam pilé dans n'importe quel taudis, dans n'importe quel bout, avec n'importe quelle sauce. Mais pourtant, j'aime manger l'yam pilé. Mais ne me demande pas d'aller le manger à n'importe quelle place ou à n'importe quel prix. À quel endroit positionnez-vous ce que vous offrez? Et enfin, comment le faites-vous savoir? Quand la maman finit de mettre la table, de rendre ça présentable, elle commence à crier, le repas est prêt, venez manger, ça va être quoi? Venez manger, non? Elle commence à faire la guerre à tout le monde pour venir manger. Pourquoi? Est-ce que vous voyez une maman qui a fini de préparer, qui dit, la nourriture est à table, puis elle va s'asseoir à table, elle attend que les gens arrivent? Dès qu'elle finit de préparer, elle commence à annoncer à tout le monde que c'est prêt. Parce qu'elle sait que si elle a fait tout ça, et qu'ils sont dans leur chambre en train de regarder la télé ou de dormir, elle ne leur fait pas savoir que c'est prêt. Tout ce qu'elle a fait est vain. C'est ces quatre domaines-là. Qu'est-ce que j'offre? À quelles conditions? Où je le positionne? La position peut être physique comme elle peut être spirituelle, comme elle peut être psychologique. Donne un exemple. Il y a des fois quand on dit aux gens, viens dans une église, ils ont une telle mauvaise idée des églises, une telle mauvaise image des chrétiens, qu'ils se disent, je vais dire à mes parents comment je suis devenu un des nés de nouveau là. Rien qu'en pensant à ça, ils ne sont même plus prêts à y penser. Parce que la position psychologique qu'occupe le chrétien dans leur tête est tellement minable qu'il refuse de rentrer dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, c'est arrivé. Quand on m'a dit Jésus, j'ai dit non, je veux être comme tout ce que je vois là. Et heureusement, Dieu m'a rassuré, non. Tu vas plutôt les changer pour être comme tu veux être. Mais il y a des gens dont la vie a une telle pierre d'achoppement qu'en pensant à eux, on se dit, donc on va dire que moi-même je suis comme ça. Votre Jésus, attendez un peu. C'est ça la position, la place, le positionnement dans l'esprit des gens. Venir au Seigneur, ça veut dire quoi dans leur esprit? Ça doit se gérer. Et enfin, comment on va vers les gens, comment on les intercepte, comment on communique avec eux? Si nous prenons au niveau du produit, la question qu'on pourrait se poser, on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour y répondre, mais on va faire quelques essais de réponse, c'est si vous allez évangéliser quelqu'un, ou témoigner à quelqu'un. Et dit, votre Jésus, là, ça me plaît bien. Maintenant, je gagne concrètement, j'aime beaucoup ce mot-là, concrètement, je gagne quoi à accepter ton Jésus? C'est la vraie question. Ça change quoi ma vie? Tu as dit, le pasteur a dit, je ne t'ai pas demandé qu'est-ce que le pasteur a dit. La Bible, ce n'est pas ce que la Bible a dit que je t'ai demandé. Tu as dit que tu es chrétien. Tu veux que je te suive. C'est peut-être pas une mauvaise idée, mais entre nous, concrètement, dis-moi entre nous, qu'est-ce que je gagne? Même si le fidèle, le païen ne vous le dit pas, c'est la vraie question que se pose toute personne quand tu proposes quelque chose. Entre nous, qu'est-ce que j'y gagne concrètement? Il ne faut pas attendre que la personne te pose cette question. Dès que tu commences à lui parler, même si lui n'a pas demandé, toi tu dois savoir dans ta tête que la seule chose importante pour quelqu'un, c'est qu'est-ce que j'y gagne concrètement. Alors, brièvement, on se donne 2 minutes. Qu'est-ce que, selon vous, on gagne concrètement à suivre celui que vous appelez Jésus? Allons-y, donnez le micro à quelqu'un. Regardez. C'est ça les vraies questions. Allez-y, allez-y, allez-y. Qui a le micro? Oui, prenez le micro, on y va rapidement.
Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, il gagne concrètement ce qu'il n'a pas.
C'est-à-dire?
Ce qui lui pose actuellement de problèmes.
Je suis un braqueur, j'ai envie de pouvoir braquer beaucoup de banques avant la fin de l'année. Si je viens à Jésus, ça me le donne concrètement.
Non, en fait, ce que je voudrais dire, si je suis un braqueur, par exemple,
oui.
Et que pourquoi je braque? C'est pour l'argent?
Oui.
C'est pour être heureux?
Oui.
Mais et si je donne ma vie à Jésus et j'ai tout l'argent que je veux, est-ce que j'aurai encore du plaisir à braquer?
Non. Je n'en sais rien. Donc, si je viens à Jésus, je vais avoir tout l'argent que je veux faire braquage pour au moins 10 drumes avant la fin de l'année. Si je viens à Jésus, je vais avoir les 10 drumes avant la fin de l'année?
C'est possible. Je n'ai pas compris.
Je n'en sais rien, moi je pose la question. Parce que j'ai remarqué les païens sont trop gentils avec vous, ils ne vous posent pas les vraies questions. Allons-y, vous avez vu les autres, on dit on y va. Concrètement, je gagne quoi à venir à ton Jésus?
Lorsque tu viens à moi, la première des choses, c'est que tu gagnes le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est que après ta mort, tu as la garantie que tu hériteras du royaume de Dieu. Maintenant, revenons dans le physique tout de suite sur la terre. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu as au moins la conviction et la capacité de dominer sur toutes choses sur la terre. L'ennemi, les sorciers qui nous font courir, peut-être tu n'as plus la possibilité d'aller dans ton village parce qu'il a des sorciers, parce qu'il a telle chose. Tu as la capacité spirituelle de vaincre toutes ces choses. Lorsque tu entreprends quelque chose, même toi à qui je parle, qui n'est pas encore chrétien, tu es d'avis avec moi qu'il y a quelqu'un qui nous dépasse tout ce qu'on appelle Dieu. Lorsque tu entreprends quelque chose, tu mets Dieu au centre, tu es sûr que cela doit prospérer. Donc, avoir tout cela, mon frère, suis mon Jésus, fais l'expérience et tu verras. On se donne date.
Alors concrètement, suivre ton Jésus, ça veut dire quoi? Si je dis oui maintenant, je suis censé faire quoi concrètement? Comment on le suit concrètement?
Pour suivre mon Seigneur Jésus-Christ, c'est très simple. C'est que tu réalises dans ton cœur que c'est lui maintenant qui prend le volant de ta vie. Tu dois marcher selon ses principes pour pouvoir bénéficier de ses avantages.
C'est ça. Merci. Voilà qui est beaucoup plus intéressant. Une autre contribution. Vous voyez, il faut être concis et précis. Il ne faut pas donner l'impression de baratiner les gens. Et c'est la question implicite. Qu'est-ce que je gagne concrètement et comment c'est censé se passer concrètement? On y va. Qui a le micro? Donnez le micro à quelqu'un. Oui, on y va.
Je vous remercie, mais je suis un peu dubitatif par rapport à la réponse qu'il a.
Oui,
en ce
pourquoi?
Sens que la Bible a dit quelque chose dans Romains chapitre 5, verset 17.
Parlez plus fort.
Romains 5, verset 17. Et L'apôtre Paul a enseigné un principe.
Parlez plus fort, rapprochez le micro de votre bouche.
Je dis, l'apôtre Paul a enseigné un principe qui est fondamental et vital pour tout chrétien. Le premier principe, c'est que la Bible dit, si par l'offense et la faute d'un seul homme, le péché a pu atteindre l'humanité et l'a réduit en esclavage, il y a combien plus forte raison pour celui qui croit en Jésus-Christ, non seulement qu'il a la vie, la promesse de la vie ici-bas, mais ils régneront dès aujourd'hui. Donc la vie éternelle que nous allons donner aux gens, ce n'est pas une vie après la mort. C'est essayer de leur dire, même temps, c'est possible. Parce que le royaume, c'est ça.
Oui, mais c'est ce qu'il a dit.
C'est ce qu'il a dit. Mais non, en fait, ce qu'il a dit, que je n'ai pas compris, c'est parce qu'il a parlé de la façon dont il faut apporter par rapport des exemples qu'il a pris. Donc,
oui,
ce
il a
que
dit
je
très
dis,
clairement, il a été concis, première chose du ciel, et en attendant, ici, voilà ce que tu as. Donc, je crois que vous ne l'avez pas bien écouté.
Bon, peut-être, c'est, peut-être.
Je crois que vous ne l'avez pas bien écouté, il a été très, très clair à ce niveau.
Okay. Bon, merci.
Merci beaucoup. Prochain. Allez-y, allez-y rapidement.
Amen. Et je pense plutôt que le mot concret est plus lié à la nature du problème que mon interlocuteur rencontre dans sa vie. Ce que quelqu'un qui est malade va gagner en suivant mon Jésus n'est pas la même chose que quelqu'un qui est au chômage va gagner. Donc c'est compte tenu du problème qu'il a que je fais mon management. Maintenant, quelqu'un qui accepte Jésus, ou bien tous ceux qui acceptent Jésus, ont la vie éternelle. Selon que la Bible nous a dit que quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc si tu acceptes mon Jésus, tu as la vie éternelle. Et je présente mon Jésus comme une machine. Une machine qui, lorsqu'elle est mise en marche, le processus n'est pas défini, mais voici, elle t'apporte telle chose. C'est un peu comme une machine à laver. Lorsque tu mets le linge, tu ne sais pas le processus par lequel le linge devient propre. Donc, quand tu acceptes mon Jésus, le nom de Jésus déjà crée la vie dans tout ton corps, que ce soit physique et spirituel. Maintenant, en ce qui concerne le matériel, c'est toujours par la parole que je vais le convaincre. Si tu acceptes mon Jésus, la Bible déclare que par ses meurtrissures, tu es guéri. Alors, c'est aussi, et la différence va s'opérer dans l'art de convaincre. Dans l'art de convaincre la personne et de l'amener à adhérer à ce que je lui propose. Donc, quelqu'un qui est malade, je lui présente l'écriture selon que, par ses meurtrissures, je suis guéri. Il est guéri plutôt. Et j'essaye de le convaincre et il me suit. Maintenant, pour quelqu'un qui est au chômage, la Bible a dit que toute chose est possible lorsque son nom est mentionné. Alors, tu es au chômage et tu me vois, moi, tous les matins, je vais au boulot. Et tu veux être comme moi. Et je viens te voir, je te dis, ben, tu fais tes gris-gris, machin, ça ne marche pas. Mais moi, j'appelle le nom de Jésus. Si tu me suis, voici, tu vas gagner un boulot. Il me demande comment. Je lui dis, mais ben, c'est simple. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors, accepte d'abord le Jésus et lorsque tu le reconnais comme ton sauveur, applique la loi de ce que, au nom de Jésus, tout genou fléchit et partout où tu vas déposer tes dossiers, on va t'appeler. C'est ce que je veux.
Ok.
Pense.
Une autre contribution.
Alors, cette question, à mon avis, bon, ça a été d'abord pour moi, à plusieurs reprises, le sujet de ma méditation. Et moi, je pense que un des apôtres de Jésus a abordé la question dans Marc 10, à partir du verset 8, où ils allaient partout, ils faisaient le boulot, et à un moment donné, Pierre a demandé à son maître que voilà que lui, il a tout quitté. Puisque Jésus, chaque fois, il leur parlait du royaume de Dieu, royaume de Dieu, et ils allaient, il a dit que voilà, il a tout quitté. Maintenant, et l'a suivi. Et qu'est-ce qui va, qu'est-ce que ça va, ou bien quel est l'avenir qui leur est garanti, qu'est-ce qu'ils ont comme garantie, qu'ils veulent comprendre ça concrètement. Donc, à mon avis, c'est sur le concret là que Pierre posait la question. Et c'est ça, Jésus lui répondait dans le verset 30, que ceux-là qui ont quitté ses pères, ses mères, de toutes ses affaires vont bénéficier du centuple de ceux qu'ils ont quitté là, chez lui. Et à tout ça là va s'ajouter encore la vie éternelle. Bon, merci.
Continuons.
Je vais poser une question par rapport à ça. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Autrement dit, c'est-à-dire, tout est impossible à celui qui ne croit pas. Donc.
Non, c'est pas vrai que tout est impossible à celui qui ne croit pas.
Pardon?
C'est pas vrai que tout est impossible à celui qui croit. Ça ne veut pas dire en mathématiques que tout est impossible à celui qui ne croit pas. Et ça ne veut pas dire ça dans la réalité. Les païens ne feraient rien et ils font plein de choses. L'induction, tu ne peux pas faire cette induction-là. Elle ne correspond à aucune logique. C'est pas que tu n'es pas un mathématicien, tu es un littéraire. Sinon, tu ne dirais pas ça. Que rien n'est impossible à celui qui croit ne veut pas dire que tout est possible à celui qui ne croit pas.
Sinon, qu'est-ce qu'il gagne à venir à Jésus s'il ne croit pas?
Non, venir à Jésus, évidemment, là je fais un peu un brainstorming, je vais faire certainement la synthèse. Venir à Jésus, c'est la première chose à expliquer aux gens. C'est quoi? C'est ça, quand je dis venir à Jésus concrètement, ça veut dire quoi? Venir à Jésus, ça veut concrètement dire croire dans son cœur qui il est et dire de sa bouche qui il est. Et naturellement, on ne peut pas demander à quelqu'un de venir à Jésus. Oh, c'est cette bêtise que beaucoup de chrétiens font sans leur dire qui est Jésus, ne serait-ce que de manière résumée. Il y a des gens, on les prend, ils ont un problème. D'accord. On leur promet qu'ils vont avoir la guérison. Celui qui a un problème, il est prêt à n'importe quoi pour être guéri. On dit que tu donnes ta vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus. Mais ça, ce n'est pas une naissance de nouveau. Parce que dans son cœur, il ne peut pas croire ce qu'il n'a pas compris. Donc, on arrive parfois à faire confesser aux gens Jésus sans obtenir qu'ils croient en Jésus. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens à l'église qui ne sont jamais nés de nouveau. Donc, nous nous précipitons tellement pour faire confesser Jésus aux gens. Moi, des fois, je vais à des endroits, on me dit, bon, on n'a pas beaucoup de temps, passe l'appel, ils vont vous donner le vie à Jésus. Je refuse de demander à des gens de dire de leur bouche qu'ils croient ce que je ne leur ai pas présenté. Quelqu'un ne peut pas signer un contrat sans le lire. Ce n'est pas sérieux de faire signer un contrat à quelqu'un sans le lui faire lire. Mais souvent, nous allons sur le terrain. On dit, oui, Jésus t'aime, il est mort pour toi. Si tu donnes ta vie, tu vas aller au paradis. Et puis ta vie sera transformée. Dis, alors, qui veut donner sa vie à Jésus? Le gars, il a tout fait, rien ne marche. Un peu comme on dit, ouais, minaï, beaucoup n'ont logon. Il dit, bon, ok, quelqu'un de plus. Un de plus, un de moins, c'est pas grave. Je donne ma vie à Jésus. Il veut essayer. Les conditions ne sont pas réunies. On a dit, si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Donc, quand le gars dit ça, il veut dire quoi concrètement? De quoi s'agit-il? À quoi dois-je croire? Vous devez pouvoir lui expliquer de manière schématique et simple à quoi il doit croire. Quand on parle de Jésus, évidemment, je fais exprès que tout le monde parle à cet effet parce que il faut bien qu'on s'entende, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de discours unique. Ça ne peut pas être une formule magique qu'on a devant n'importe qui, on récite la formule et puis la personne donne sa vie à Jésus. Le Saint-Esprit va convaincre chacun. Il y a des gens, vous arrivez devant eux, vous n'avez même pas besoin de parler. Le Saint-Esprit l'a tellement travaillé qu'il vous dit simplement, il vous pose deux, trois questions pour avoir des éclaircissements. Il dit, je donne ma vie à Jésus. Il y a des gens, vous allez parler, ils vont vous poser des questions, ils vont demander, allez réfléchir, ils vont revenir avec des questions. C'est tout un processus avant qu'il le donne. Il y a des gens, vous arrivez, vous les voyez, par exemple, ça peut être une femme, elle vient de faire un avortement. Il dit, vous avez fait un avortement ce matin, comment vous savez? Comme ça, c'est Dieu qui me dit. C'est une démonstration de puissance. Tout ce que tu diras va avaler. Parce que tu viens de lui démontrer comme Jésus que tu as Dieu en toi. Quand tu viens de faire ce miracle, d'une parole de connaissance sur sa vie, elle est ouverte. Tu lui expliques les choses. Quand tu dis, mets-toi à genoux, on va donner ta vie à Jésus, il le donnera. Parce que Dieu t'a donné, avant tout, une parole de connaissance. Tu peux prendre quelqu'un, tu le vois, tu dis, je vois que demain, tu vas avoir un emploi. Demain, notre bien à 9h, on va t'appeler. Tu vas aller, tu vas signer un contrat, tu vas avoir 200 000 de salaire. Le gars arrive, il est là demain à 9h, son téléphone sonne. Quand il t'appelle là, c'est un peu pour que tu le convainques. C'est d'abord pour donner sa vie à Jésus, ton Jésus, et après il va comprendre. Donc, il y a différents cas. Et c'est là où vous vous rappelez, vous avez dit, c'est le Saint-Esprit qui est l'architecte de la conversion des gens. Mais n'empêche, comme c'est comme une langue, on ne sait pas quand on veut parler, quel mot on va utiliser, quelle phrase on va utiliser, quelle conjugaison on va utiliser. Donc, on les apprend toutes. De telle sorte que selon le contexte, notre esprit va puiser dans le vocabulaire que nous avons emmagasiné de quoi faire des phrases. Quand nous parlons d'équipement, de tout ça outil pour le gagnant d'âme, c'est pour ça que je dis, c'est tout ça outil, je n'ai pas dit de stratégie, je n'ai pas dit de formule magique. C'est une trousse à outils. C'est un endroit dans lequel vous mettez beaucoup d'arsenal, beaucoup d'explications. En réalité, tout ce que vous apprenez ici peut intervenir à un moment ou à un autre. Vous pouvez tomber sur un musulman qui vous attaque de manière frontale. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est à ça, parce que souvent la question que les gens posent, je dis, je suis globalement d'accord avec vous, mais là, je bloque. S'il est globalement d'accord avec vous, et que c'est là qui bloque, c'est là qui veut que vous alliez, parfois tu n'as pas le choix que d'aller directement là. Et à cet endroit-là, c'est ce que tu sais de ce truc-là que tu vas utiliser. Si tu ne le sais pas, il faudra avoir la sagesse de l'amener là où des gens qui savent peuvent lui répondre avec sagesse. Tu peux aller voir quelqu'un, comme l'ont dit certains, il est malade. Premier défi, quelqu'un qui est malade, c'est comme on dit dans le droit. Tout engagement pris sous contrainte est nul. Est-ce que vous savez ça en droit? Ou bien, tout engagement pris sous contrainte est nul. Or, si vous regardez bien, le droit est inspiré de la parole de Dieu. C'est la loi. La loi, éviter d'avoir la loi juridique. Les principes juridiques sont les principes inspirés de la loi. De la même manière, si quelqu'un, tu ne peux pas mettre le couteau sur la tempe à quelqu'un, dit signe le contrat et il signe. Dans le monde, c'est nul. Dieu ne peut pas mettre sur le couteau la tempe sur le couteau quelqu'un, tu vas mourir si tu n'es pas que tu m'aimes. Si la personne dit qu'il aime ça, ne vaut rien dire. Ce qui est obtenu sous le chantage n'a pas de valeur. Dieu veut notre cœur, il ne veut pas de signature, il s'en fout. Il y a des gens qui sont à des moments où ils sont à l'article de la mort. Ils n'ont parfois pas de quoi, ils ne peuvent même pas comprendre ce que tu dis. On dit, dis oui. Est-ce qu'on va dire que celui-là donne sa vie à Jésus? Il a compris quoi? Il a cru quoi dans son cœur? Il n'avait pas le choix, il était malade. Tu dis qu'il ne guérira pas s'il ne dit pas qu'il aime Jésus. Non, il te dit qu'il aime Jésus. Quand après toi, le Seigneur vient à dire, dis oui, il va dire oui. On dit, dis non, il va dire non. Il s'en fout à l'état pour lui, il veut juste guérir. À cette étape-là, c'est bon d'obtenir sa coopération pour avancer. Mais il ne faut pas te faire diriger, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Il ne peut pas être sous la contrainte et donner sincèrement sa vie à Jésus. Oui, il peut, mais il faut que tu aies vraiment la preuve que ce n'est pas par contrainte qu'il a fait ça, mais parce qu'il a eu une révélation, il a compris et qu'il sait à quoi il s'engage. Quelqu'un peut être malade, que tu lui parles de Dieu, qu'il comprenne et qu'il dise « je veux suivre Dieu ». Mais si tu réalises qu'il n'a rien compris, il est toujours avec ses chapelets, avec ses médailles miraculeuses, avec ses grosses bougies. Et souvent, qu'est-ce que moi j'ai vu dans les hôpitaux, nous allons prier pour des gens. On dit à Dieu, ça vient Jésus. Tu as à peine passé que quelqu'un vient avec des chapelets, de l'eau bénite, il les a encore pris. Vous partez à peine, c'est du chef, vient avec une calabasse, comme sous son lit, il prend encore. Quelqu'un vient demander de mettre tel bagage, il prend encore. Ça dit que c'est quelqu'un, il est au marché, il est prêt à tout ce qui peut le sauver. On ne peut pas dire qu'on est parti enseigner la parole de Dieu à celui-là. Dans ce cas, je crois qu'il faut prier pour la personne et il faut leur dire, Dieu va faire quelque chose. Nous allons prier Dieu. Quoi qu'il peut le faire, mets Dieu à l'épreuve. Dis à mon Dieu que s'il est vrai, qu'il te lève de ce lit-là, que tu vas croire en lui. Et n'oublie pas que tu as fait une promesse, on ne se moque pas de Dieu. À ce moment, je crois que, comme je dis, ce que je dis n'est pas parole d'évangile, mais c'est ce que je crois. Nous devons pouvoir dire à Dieu, il ne te connaît pas. Il n'est pas en situation objectivement de te connaître, sauf si tu te révèles à lui. Mais je lui ai dit que tu es vivant. Je lui ai dit que tu es le Dieu qui guérit. Comme le disait Jésus à propos de Lazare, je sais que tu m'exauces toujours. Mais pour te glorifier dans sa vie, pour lui montrer que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu des impossibilités, je lui ai dit que tu es Dieu, que parce que tu es Dieu, il va se lever de cet hôpital dans 3 jours. Seigneur, fais-le pour sa foi. Et toi, tu pries pour lui. Tu peux prier avec lui. Mais il t'entend. C'est comme si tu lui lances un défi ou que tu lances un défi à Dieu avec le bout témoin. S'il est dans le plan de vie, si Dieu a un plan pour lui, Dieu va le guérir, on voit ça souvent. À ce moment, quand il sort de l'hôpital ou quand il va mieux, tu dois maintenant l'évangéliser. Tu auras alors 2 cas. Tu as des gens qui, impressionnés par cette démonstration de force de Dieu, ont le cœur perméable. Tu leur enseignes la parole de Dieu, ils la comprennent. Et là, maintenant, ils donnent sincèrement, clairement et vraiment leur vie à Jésus. Parfait. Il y a des gens, dès qu'ils sont guéris, tu ne pourras même plus les rencontrer. Je n'ai pas le temps, je vais t'inquiète pas. Ami, ça te voyait, nawa, tu ne le verras plus. Jusqu'à ce que Dieu l'attrape ailleurs et le coupe encore. Là, ce n'est plus la peine d'aller prier. Et quand tu vas voir, Dieu ne va pas répondre. Parfois, Dieu fait ce qu'on va pour montrer qu'il y a des gens qui sont têtus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut jamais demander à quelqu'un d'un hôpital de donner sa vie à Jésus. C'est possible. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est de l'escroquerie spirituelle que de faire confesser Jésus à des gens qui ne l'ont pas compris. On se blague en se disant, bon, j'ai fait un programme, 100 personnes se sont levées. Mais Jésus dit, si tu crois du cœur, quelle fierté on devrait avoir en tant que chrétien, c'est faire à compter nos personnes qui sont levées quand on sait très bien que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils comprennent. Jésus t'aime. Si tu viens, tous tes problèmes sont réglés. Tu veux venir à Jésus? Si je vais quelque part, je dis à plein paysan, qui veut que je lui offre la dernière Mercedes? Ils vont tous lever la main. Mais quand je lui ai dit, donnez l'argent pour acheter la Mercedes, plus personne ne bougera. Parce qu'il n'était pas prêt à acheter la Mercedes. Il dit, ah, nous devons la mieux aussi. Nous allons, ouais, c'est comme ça de ça qu'on a besoin maintenant. Il y a des gens qui font comme ça. Et c'est pour ça qu'ils viennent à l'église, ils n'obéissent pas. Parce que venir à Jésus, c'est signer un contrat avec Dieu. Ce qui dit contrat dit, voilà ce que Dieu fera si tu fais ça. Avant de signer un contrat, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que le contrat dit que j'ai comme obligation? Et qu'est-ce que le contrat dit que j'ai comme droit? Entre-temps, mon vis-à-vis, là, il a quoi comme obligation? Si je trouve que le contrat est honnête, je le signe, non? Ou bien, on ne peut pas dire à quelqu'un, parce que tu es malade, bon, signe ce contrat seulement. Signe ce contrat, demain il va avoir des problèmes, il ne sait pas ce qu'il a signé. Expliquez aux gens quel est le contrat. Voilà qui est Dieu. Il a fait son monde. C'est lui qui en a fait les lois. C'est lui qui fait que telle chose donne telle chose. C'est lui qui fait que quand tu sèmes le maïs, ça donne une récolte. C'est lui qui fait que quand tu conçois un enfant, tu le portes à tes millénaires. C'est le Dieu qui fait les choses. Et il fait les choses selon les lois qu'il a créées. Nous voyons tous les jours la manifestation des lois de Dieu partout. Comme dans le réel, quand tu violes une loi, tu en as les conséquences. Même au niveau spirituel, il y a des gens qui ne sont pas finis respecter les lois de leur fétiche. Et il faut toujours parler un peu aux gens comme Paul et consorts de ce qu'ils connaissent. Si le gars est un grand féticheux, il faut lui parler le langage des fétiches. On l'a fait ici. Quand ils font leur truc, ils jettent ça où? Au carrefour. Le carrefour, c'est une croix. Ils font leur truc avec quoi? Le pouvoir, la parole, leurs incantations, là, c'est la parole. Tout féticheur fait l'importance de respecter ce qu'on appelle les règles. Donc, selon la personne, on va choisir le registre qu'on va utiliser. Mais pour lui expliquer, à mon avis, une des choses les plus importantes, celui qui veut donner sa vie à Jésus, quelqu'un qui veut signer un contrat. On ne peut pas lui demander de signer un contrat sans lui expliquer ce qu'on appelle un contrat. Attention, ce que tu signes là va t'engager. Hein. Si tu le fais, Dieu va faire sa part. Si tu ne le fais pas, Dieu ne fera pas sa part. Hein. Je ne t'invite pas à venir t'asseoir dans une église. C'est pour ça que je te dis, reste même où tu veux. Tu veux me rester à la mosquée. Mais si tu respectes ce contrat-là, mon Dieu va te bénir. Mais tu veux venir dormir à l'église. Si tu ne respectes pas ce contrat, il ne te bénira pas. Ça veut dire que si les églises sont pareilles, ce n'est pas à moi de te répondre. Moi venu, Dieu te répondra parce que mon Dieu parle. Mais ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est ton contrat avec Dieu. Tu peux même aller dormir dans les cimetières, c'est ton problème. Je veux te dire, Dieu a un contrat. La parole de Dieu, c'est un contrat. Je ne suis pas dans une religion où on dit c'est comme ça, crois et puis c'est tout. J'ai un Dieu vivant. Il m'a dit, si tu fais ça, je te donne ci. Je l'ai testé, je suis un scientifique. Si c'est pour raisonner, je suis plus fort que tout le monde. Si c'est pour me moquer des gens, je suis plus fort que tout le monde. Si tu me vois, moi qui suis ici, et je parle de ce Dieu-là en public, je laisse mes affaires pour en parler, c'est que minimalement, il est convaincant. Sinon, je ne vais pas laisser mes affaires pour parler de Dieu. Toi qui es là, tu peux me donner quoi? Si tu me dis à Jésus, mais tu vas me donner quoi maintenant? Même si tu dois venir à l'église, tu donnes une dîme, tu vas me donner quoi? Toi qui es là, entre nous. Donc tu vois qu'il n'y a rien. Je n'ai pas de mobile pour venir te mentir. Je n'ai pas de mobile pour venir te mentir. Mais je constate que tu veux réussir. Tu n'es pas un paresseux. Ce n'est pas que tu ne travailles pas. Tu es un ouamaman, non. C'est-à-dire, tu travailles, tu couilles, il n'y a rien dedans. Et toi et moi, nous savons au fond de toi qu'à la lutte, tu es parti, il n'y aura jamais rien. Tu vas mourir comme tes parents, comme tous tes frères, dans les problèmes. On le sait. Le reste, c'est que comment on va faire, l'homme mange le cœur. Mais il y a une solution. Tu as des problèmes parce que tu n'as pas respecté ton contrat avec Dieu. Et tu ne sais même pas qu'il y a de contrat. Parce que aussi bien à l'église qu'à la mosquée, que chez les féticheurs, tout le monde veut te voler. On te dit, donne-moi un poulet, tu vas être béni. Tu as donné poulet, tu as donné bœuf, tu n'es pas béni. Donc je n'ai plus besoin de dire que ça ne marche pas. Toi-même, tu le fais déjà. Donc laissons ça de côté. Tu es parti à l'église. Je n'ai pas besoin de dire que ça ne marche pas d'aller à l'église sans avoir un contrat avec Dieu. Toi-même, tu as vu que ça n'a pas marché. Laissons ça. Je vais te montrer, c'est écrit dans la parole de Dieu que cela ne marche pas. Mais Dieu dit, j'ai un contrat avec toi. Teste-moi. Tout ce que moi je veux savoir, est-ce que tu es prêt à essayer un contrat avec Dieu? Cela veut dire savoir qu'est-ce que Dieu ordonne, le faire. Et que toi et moi, nous lançons au Dieu des défis. Moi, je te dis, si tu testes Dieu, et nous avons la preuve que tu l'as testé, et il ne fait pas ce qu'il a dit qu'il fera, moi-même, je ne suivrai plus ce Dieu. Pour voir quelqu'un se moque des gens, parce que personne ne veut perdre son temps. Et c'est vrai. Moi, si quelqu'un me prouve qu'il a respecté une parole de Dieu, et Dieu n'a pas été fidèle, moi, je vais arrêter de servir Dieu. Et Dieu même fait ça. Il ne faut pas qu'on se raconte des victoires. Dieu est Dieu parce qu'il est fidèle. à sa parole. Le jour où il est démontré que Dieu n'a pas accepté de ses paroles, Dieu lui-même a des problèmes. Il n'est plus Dieu. Et il le sait. Et nous devons voir quoi je le dis. Mais je suis venu t'expliquer le contrat de Dieu. Ne me dis pas, oui, je suis ton Dieu, je ne veux pas ça. Ne bien aille à mis à toi. Je m'en fous que tu viennes dans l'église. Ta présence à mon église ne t'apportera rien. Si tu n'as pas de contrat avec le Dieu que j'ai. Je préfère continuer un contrat avec mon Dieu dans ta maison que de venir à mon église sans de contrat avec Dieu. Parce que tu vas me dire, moi je te le dis d'avance, les chrétiens sont des milliers de pauvres, ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont pas de contrat avec Dieu, ils remplissent ses églises. Les gens les appellent pour les bouffer. Je sais, tu vas me dire, les pasteurs sont des bandits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bandits. Mais ce n'est pas ça que je suis venu te dire. Je suis venu te dire, toi là, oublie tous les bandits. Et toi là, signe un contrat avec Dieu. Et teste-le. Est-ce que c'est compliqué de tester Dieu? Je ne pense pas que quelqu'un puisse à ça dire, je m'en fous, je ne veux pas voir de quoi il s'agit. Toute personne veut voir quel contrat tu lui proposes. Voilà les articles du contrat. Il y en a beaucoup. Mais il y en a quelques-uns qui sont essentiels. Première chose, tu récolteras toujours ce que tu auras semé. De même que tu ne peux pas avoir d'enfant sans aller avec ta femme, tu ne peux pas avoir de requête sans aller dans ton champ, tu ne peux pas avoir de récolte sans avoir labouré. De la même manière, mon Dieu n'est pas un plaisantin distributeur de gâteaux. C'est un Dieu. Toi qui es là, tu n'accepteras pas qu'un de tes enfants dorme toute la journée et qu'il ait tout ce qu'il faut. Tu vas dire, moi, va à l'école, si c'est là, j'allais à l'école, va en apprentissage, si c'est là, j'allais en apprentissage, fais quelque chose. Mon Dieu est pareil. Il ne peut pas prendre des gens, des enfants qui font n'importe quoi et leur donner tout. Pourquoi vous pensez que mon Dieu est plus bête qu'un papa normal? Toi, là, si ta fille qui a 18 ans, lui te demande de lui laver ses slips, tu vas lui laver son slip. Si tu as une maman qui se respecte, ta fille a 18 ans, dit, maman, lave-moi mon slip, tu vas laver son slip. Le fait de ne pas laver son slip, ça veut dire que tu n'as pas la capacité de laver son slip. Ça veut dire que tu l'aimes trop pour accepter de laver le slip d'une fille qui a 18 ans, qui ne sait pas qu'elle doit le faire elle-même. Il faut savoir que dans notre vie, là, tout le monde nous demandera des choses à Dieu, qu'il nous aime trop pour accepter de le faire. S'il le fait, nous allons être gâtés, nous allons être pourris. Dieu est logique. Nous pensons, j'ai pensé comme toi que Dieu n'est pas logique. Il fait comme il veut, il finit par m'énerver. S'il ne peut pas régler les problèmes, pourquoi il est Dieu? Mais nous allons découvrir quand on regarde le contrat que c'est nous qui créons les problèmes. Il a dit que lui, il est prêt à nous bénir. Mais les contrats sont là. Nous avons ce que nous avons semé. Si tu as fétiche, il dit que tu ne manges pas du riz. Tu manges du riz et tu tombes malade. Ce n'est pas que Dieu, le fétiche est mauvais. Tu savais qu'en prenant ce fétiche-là, lui ne mange pas de riz. Tu manges du riz, tu vas gonfler. Tu as mangé du riz, tu vas gonfler. Est-ce qu'il y a magie là? Ou bien, il faut, je pense, il y a beaucoup de choses pour convaincre les gens. Mais je crois que la chose sur laquelle je voudrais qu'on insiste le plus, c'est l'idée que venir à Jésus, c'est signer un contrat avec Dieu. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu dit, si j'ai oublié de faire quelque chose que j'ai promis à quelqu'un, qui me le rappelle? En réalité, prier, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, tu as dit tel, fais-le. Tu as promis tel, fais-le. Tu as dit si. C'est comme ça qu'on prie, non? La vraie prière chrétienne, c'est dire à Dieu, tu as dit, donc, tu as promis, donc, tu avais fait, donc, tu as fait ça pour Esther, tu as dit que tu ne changes pas, fais-le pour moi. C'est ça la prière. C'est pas à Dieu, si ça te plaît, bon, pardon, il faut me donner beaucoup de nourriture aujourd'hui, j'ai envie de manger, quoi. À ce moment, Dieu va dire, mais, lis, j'ai écrit à tel endroit, vous ne mangerez pas le sang d'un animal. Quand vous tuerez un animal, vous laisserez tout son sang sortir et vous ne mangerez pas son sang. Parce que son sang, c'est la vie. Est-ce que tu peux dire à ton fils que tu ne veux pas la drogue? Il va dire, papa, achète-moi un bâton de marijuana. Si tu ne le gifles pas, au moins tu ne vas pas lui donner. Quand toi, tu vas demander quoi prêter à Dieu, tu dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent, donne-moi l'argent, je vais aller manger, rentrer avec mes amis à midi. Si Dieu ne te répond pas, est-ce que c'est bizarre? Tu ne serais même pas surpris si tu connaissais le contrat avec Dieu? Ou bien, vous demandez l'argent pour aller manger, rentrer. Ne sachant même pas que celui que vous le demandez déteste ça. C'est ça le problème. Le problème de la foi des gens, c'est qu'ils viennent au Seigneur comme des aveugles. On ne leur a pas ouvert les yeux. On leur a dit, tu as été dans tout. Moi, je connais plein de gens. Ils sont chrétiens, se baladent encore d'église en église. Dès que quelqu'un fait délivrance quelque part, ils vont là-bas, on les délivre, mais ils sont toujours liés. Donc, et de ce point de vue, les chrétiens ont besoin d'être encore plus évangélisés que les païens. Mais quand Jésus donnait des consignes à ses disciples, il y a des vagues de missions qu'il a lancées, il a dit, concentrez-vous sur les juifs. Après, il a envoyé les gens comme Paul et Pierre évangéliser les païens. Mais au début, il a envoyé des gens pour dire, concentrez-vous sur les juifs. C'est-à-dire que, écoutez, imaginez aujourd'hui,
Et c'est moi ma prière à Dieu tous les jours pour le club Jésus pour réussir. Imaginez que vous qui êtes ici là, vous devenez vraiment ce que vous êtes censé être en Dieu. C'est plus efficace que de faire 1000 campagnes d'évangélisation. Chaque chrétien qui manifeste dans sa vie ce que ça veut dire d'être chrétien ne peut qu'amener des milliers de personnes au Seigneur. Si les chrétiens que nous avons aujourd'hui qui remplissent ces églises les dimanches-là étaient de vrais chrétiens, le pays devrait s'embraser. Il devrait y avoir un réveil. Mais regardez, les gens rentrent de plus en plus dans les églises, mais il n'y a pas de réveil, rien ne se passe dans le pays. Parce que Satan est malin. Vous voulez évangéliser les gens, non? D'accord, il vous donne des allumettes mouillées. Un chrétien, c'est une allumette que Dieu doit pouvoir allumer pour embraser. Jésus dit, Satan dit, vous voulez des chrétiens? Prenez, il mouille l'allumette et te donne. Quand tu dis que tu allumettes, et tu remplis des cartons d'allumettes. Il vaut mieux ne pas avoir d'allumettes, savoir que tu n'as pas d'allumettes, que d'avoir beaucoup de conteneurs d'allumettes mouillées et dire que tu as du feu. Je veux que vous réalisiez ça. Quand on rentre dans beaucoup d'églises, les gens ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Un royaume, c'est quoi? Je peux être citoyen béninois, ne pas savoir ce qu'on appelle commissariat. Donc si j'ai un problème, je ne peux pas me plaindre quelque part. Ne pas savoir ce qu'on appelle hôpital. Si je suis malade, je ne sais pas que je dois aller à l'hôpital. Donc quand je suis malade, je peux dire, je suis dans un pays, on m'a dit que le pays allait me soigner, voilà, j'ai mal au ventre, je ne sais pas quoi faire. Si un citoyen d'un pays est ignorant comme ça, il ne connaît pas hôpital, il ne sait pas ce qu'on appelle tribunal pour se plaindre, il ne sait pas ce qu'on appelle commissariat, est-ce que ça peut être un citoyen du pays? Un citoyen d'un pays connaît ce que le pays a prévu comme mécanisme pour son salut et va utiliser ces mécanismes quand il en a besoin. Mais si quelqu'un citoyen d'un pays, il ne sait pas que quelque chose s'appelle commissariat, il ne sait pas que quelque chose s'appelle mairie, il ne sait pas que quelque chose s'appelle délégué, il ne sait pas ce qu'on appelle tribunal, il ne sait pas ce qu'on appelle hôpital, il ne sait pas ce qu'on appelle ministère, et il dit les citoyens béninois, est-ce qu'il est vraiment citoyen du Bénin? Et il a, ça fait 10 ans qu'il habite au Bénin. Et il n'a jamais entendu parler de délégué, de mairie, d'arrondissement, de police, de commissariat, d'hôpital. Il n'a jamais entendu parler des institutions, des mécanismes, des lois par lesquelles dans le pays on peut être béni. Est-ce que c'est possible qu'il soit vraiment citoyen du Bénin? Tu peux vivre au Bénin 10 ans sans jamais aller chez un délégué? Ou bien tu es au Bénin, on dit 20 millions, tu dis c'est quoi 20 millions? Est-ce que tu ne t'es jamais déplacé? Comment tu peux être au Bénin depuis 10 ans, tu ne connais pas 20 millions? Donc tu n'es pas un béninois? Ou bien, est-ce que vous me suivez? Prenez nos frères chrétiens dans beaucoup d'églises. Il y a des exceptions, bien sûr. Parlez avec eux. C'est des visiteurs de l'église. Ce pas des gens qui sont en contrat avec Dieu. C'est des gens qui disent, on a dit au Maogueloko, au Banamblo, il y a des programmes de prière, l'heure va sonner. D'ailleurs, on attend Dieu passivement. C'est le Dieu capricieux qu'on fournit, hein, qu'on a fourni, en attendant, moi, la mitraille, ouais. C'est comme ça, non? Ou bien, et pour essayer de forcer un peu la main à Dieu, bon, je vais essayer de souffrir en ne mangeant pas, il va avoir pitié, mon nom, il a dit, on a fourni, maintenant, on a fourni. Non, je n'ai qu'à pas, on ne va pas manger aujourd'hui. S'il voit que j'ai faim, il va peut-être se dépêcher d'avoir envie de me bénir. Parlez avec un chrétien, vous ne sentez jamais quelqu'un qui est dans un contrat. C'est ça le problème. Et si nous devons, en tout cas, si quelqu'un du club doit évangéliser, je rêve vraiment que nous allumions des contrats avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'alliance, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Alliance, c'est un pacte de sang. C'est un contrat. Toi et moi, nous faisons pacte de sang. Mes enfants n'affronteront jamais tes enfants. Si je ne suis pas là, tu es occupé de mes enfants. C'est ça un contrat. Tu ne peux pas passer alliance sans que ce soit entendu sur rien. Ou bien, nos églises sont pleines de gens qui n'ont pas de contrat avec Dieu. Attends, je suis le seul à trouver ça bizarre. Parce que quand je vous vois la journée aussi, c'est moi qui suis fou. Hein? C'est moi qui suis fou? Et les hommes de Dieu entretiennent ça. Et je terminerai sur ça. On va faire la suite de ce séminaire la semaine prochaine. On va faire la deuxième partie parce que c'est trop important. Quand, par exemple, un fidèle va voir son pasteur, si l'un d'entre vous vient me voir poser un problème, moi, la première chose que je fais pour lui, ce n'est pas de prier. Non. C'est de faire un diagnostic. Il a un problème dans tel domaine. Qu'est-ce que Dieu dit qu'on doit faire dans ce domaine? Qu'est-ce qu'il fait? La première chose que je fais, j'audite son comportement dans ce domaine et j'essaie de trouver en quoi il n'a pas obéi à Dieu. Et je lui dis, obéis à Dieu dans tel domaine, ça va aller. Prions pour que Dieu t'aide à lui obéir. prions pour qu'il te pardonne tes erreurs et qu'il te restaure. Point final. Tu es une femme, tu es sur le point de divorcer, ton mari ne vient plus à la maison. D'accord, ton mari est mauvais, d'accord. On a mis son esprit dans une bouteille, d'accord. Mais regardons qu'est-ce que Dieu a dit qu'une femme doit faire. Raconte-moi. Enfin, elle va me passer à parler. Il a dit si, et puis je lui ai dit que je vais le gifler. J'ai dit, mais tu l'as dit que tu vas le gifler. Est-ce que Dieu a dit que les femmes doivent dire à leur mari qu'ils vont les gifler? Regardons qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu ne peut pas bénir ton couple si tu ne respectes pas la manière dont il a dit qu'une femme se comporte dans un couple. Est-ce que tu sais que Dieu a dit qu'il vaut mieux pour un homme sortir de la maison que de vivre sous le toit d'une femme querelleuse? Or, tout ce que tu me dis là, c'est que tu es un professionnel de la querelle. Quand le gars rentre à la maison avant de se déshabiller, c'est que les problèmes ont commencé. Conclusion, il traîne dans la maison jusqu'à ce que tu aies dormi avant d'arriver. La parole de Dieu dit que quand tu es comme ça, si ton mari ne dort pas dehors, c'est que la parole de Dieu ment. Si la parole de Dieu dit que il vaut mieux pour un homme dormir dehors que de vivre sous le toit d'une femme querelleuse. Si tu veux que ton mari revienne, répands-toi de tes violations de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne dira rien au mari. Ça ne veut pas dire qu'on ne priera pas. Mais Dieu dit l'obéissance vaut mieux que tout. Si tu commences à obéir à Dieu, on va faire un papier. Les règles de Dieu que tu respectes, les règles de Dieu que tu ne respectes pas dans ce domaine. Nous allons prier ensemble pour que tu aies la force de les respecter. Et si mon Dieu n'est pas un menteur, tu n'auras pas fini de respecter que ton mari va arriver à la maison. À moins que ce ne soit pas ton mari. Comment tu l'as eu? Quel botte et mie tu es parti faire pour qu'il la fasse de sortir avec toi? Quel parfum magique tu as utilisé? Quel sel de bibou tu es parti mettre de sa nourriture? Quel condom quoi tu es parti faire avec coco, je sais ton quelle bêtise de sucre pour qu'il soit ton mari? Avec quel esprit satanique tu avais attaché votre relation? Et comme quand Dieu vient, il balaie toujours toutes les œuvres de Satan parce qu'il ne tisse pas au bout de la corde de Satan. Est-ce que ce n'est pas par hasard que l'heure de Dieu a sonné pour ce petit-là et que Dieu est en train de le sortir de l'enfer? Si c'est le cas, répands-toi. Demande à Dieu de te donner ton mari. Parce que ça ne fait rien de commencer à dire, au nom de Jésus, il reviendra. Sa femme là, la femme diabolique là, Dieu va la... Et tu commences à niaiser, tu dis que tu es pasteur. La Bible dit que celui qui dit à quelqu'un qui est coupable, qu'il est innocent, alors que Dieu lui en veut, ou celui qui dit à quelqu'un qui est innocent, qu'il est coupable, Dieu lui demandera des comptes. On prend les gens dès qu'ils posent leurs problèmes, on n'analyse pas leurs problèmes, on commence à considérer que Dieu est de leur côté et commence à leur dire qu'ils ont raison. Alors que si tu écoutes, une grande prostituée vient nous voir, on commence à maudire son mari dans l'église. Parce qu'elle est chrétienne et qu'elle veut dire que son mari est parti, le mari est forcément un diable. Écoutez d'abord le mari. Et voici, c'est lui qui doit être délivré parfois à votre soeur. Nous devons faire preuve de sagesse. Toute la vie chrétienne est une question de loi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça t'a donné? Moi, je peux avoir n'importe quel problème. Je rends grâce à Dieu. Je sais toujours qu'est-ce que je n'ai pas encore respecté dans le contrat qui le justifie. Le jour où j'aurai tout respecté dans le contrat et Dieu ne va pas me bénir, lui-même, il connaît, je vais lui poser des questions. Il n'y a rien à faire. Et quand je n'ai pas quelque chose, il me met à cœur ce que je n'ai pas encore fait. Moi, je sais que c'est vrai. C'est un contrat. Dieu dit, si je dois quelqu'un, quelque chose me rappelle. Si tu as vraiment tout fait et Dieu ne t'a pas béni, interpelle-le publiquement. Dis, Dieu, tu es un menteur. Et il va te montrer que c'est toi qui es le menteur. Tu as par exemple dit, Seigneur, j'ai tout fait. J'ai fait toutes les prières. Je n'ai jamais eu d'enfant. Il va dire, te rappelles-tu que quand tu avais 10 ans, tu disais à toutes tes copines que toi, tu ne veux pas avoir d'enfant? Que tu es prêt à vivre sans enfant, que tu n'auras jamais d'enfant. Les enfants, c'est du n'importe quoi. Toi, tu préfères adopter les enfants, vivre en Europe avec un blanc, voyager. Tu te rappelles que tu as dit ça quand tu étais au CM2? Tu baisses la tête. Le pouvoir de la parole, tu as décrété. Tu as ordonné à la création de pas donner d'enfant. Tu demandes des enfants, est-ce que tu as réouvert la porte que tu as fermée spirituellement? Mets-toi à genoux, répands-toi d'avoir décrété que tu ne veux pas avoir d'enfant. Quand tu l'auras fait, tu auras d'enfant. Tu as bien crié, oui, j'ai prié. Dieu dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Moi, je suis stérile. Dieu n'est pas vrai, Dieu n'est pas vrai. Tu te rappelles ce que toi tu as dit. Tu seras justifié, condamné par ta parole. Dieu est terrible, hein? C'est un tribunal. Il ne faut pas blaguer, niaiser. Il n'y a personne qui respecte la parole de Dieu et que Dieu ne soit pas fidèle. Et quand vous dites, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi tu ne me bénis pas? Il vous répond toujours. Il vous explique pourquoi il ne t'a pas encore béni. Il va voir, article tel. Quand il y a un tribunal, selon l'article tel du code pénal, il est écrit. Selon proverbe tel, il est écrit que. Il vaut mieux pour un homme vivre dehors que sous le toit d'une femme querelleuse. Cela étant,
Je réclame au tribunal que c'est comme ça que Satan travaille. C'est un procureur, il connaît la loi par cœur, il ne faut pas avoir besoin. Il connaît la loi par cœur, dans tous ses versets, dans tous ses articles, dans toutes ses versions. Est-ce que vous me comprenez? Pour vous-même, pour les frères qui sont déjà chrétiens, et surtout pour gagner des âmes, donner naissance à des bébés spirituels génétiquement bons. Il ne faut pas faire des mongols et des nains spirituels. Quand quelqu'un le prend, bon, Jésus t'aime, tu as des problèmes, non? Viens à Jésus. Je confesse que Jésus est Seigneur. Ça, c'est un mongol spirituel, il ne connaît rien à Jésus, il ne peut pas signer le contrat avec Jésus. Demandez à mon épouse, quand on va quelque part, je dis, je n'ai pas envie de faire d'appel à ce que les gens donnent leur vie à Jésus si on ne me donne pas le temps pour leur dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est de l'hypocrisie. Tu prends quelqu'un, tu lui dis, prends le contrat. C'est un contrat de bonheur. Signe. Et la personne signe. La loi va dire, ce contrat-là est nul de lui, le garde ne l'a pas lu. On doit mettre sur chaque page, lu et approuvé. Le gars n'a pas lu. Tu lui demandes de signer un contrat. Ça ne l'engage pas. Quand ça l'engage, il ne connaît pas Dieu. Tu dis de donner sa vie à Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce que Dieu est. Tu dis de dire qu'il aime Dieu et qu'il est prêt à donner toute sa vie à Dieu. Tu ne sais même pas qui est Dieu. Et tu lui fais confesser qu'il donne toute sa vie à Dieu. Tu lui fais mentir. Quand vous prenez les apôtres là avec les Philippe et consorts, il a pris la loi, le livre. Il lui a expliqué ce que ça voulait dire. C'est après ça que Philippe a été convaincu. Il dit, maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il n'est pas venu voir Philippe. Dieu t'aime, Philippe, dit, oh, baptise-moi. Il a pris le livre, il lui a expliqué le contrat, la loi. Et c'est après ça que Philippe, ayant la matière, dit, d'accord maintenant. Quand Jésus prend les gens, le royaume des cieux est comparable à. Le royaume des cieux est comparable à. Il leur explique ce qu'il a proposé comme contrat. Si tu veux me suivre, prends ta croix. Il dit pas, suis-moi seulement, tu verras après. Prends ta croix. Quand tu peux dire, dis non, si c'est croix, dis non, moi je ne signe pas. Tu veux me suivre, vends tout tes biens. Tu peux dire, si c'est ça, je ne te suis pas. Il dit pas, non, viens suivre moi, vous allez voir après. Venez seulement à l'église, vous allez voir après. Il te dit clairement. Et il t'attire ton attention sur les aspects du contrat que tu peux paraître, tu peux trouver difficile. Tu dois dire, non, mais attention, ne t'inquiète pas, mon joug est léger. Et je suis fidèle. Il vaut mieux m'avoir comme fardeau que d'avoir Satan comme fardeau. Parce qu'en réalité, on dit tout ça là. C'est mille fois plus facile d'obéir à Dieu que d'obéir à Satan. Hein. Enfin, d'accord. Donc, que le contrat soit votre obsession. Je veux avoir la fierté de dire à Dieu, j'ai des enfants spirituels qui ne donnent pas naissance à des Mongols. Ne donnez jamais à quelqu'un l'occasion de dire qu'il suit Dieu sans savoir qu'est-ce que ça veut dire suivre Dieu. Si les gens comprennent ce que ça veut dire suivre Dieu, ils vont marcher plus vite derrière Dieu. Ils vont être bénis plus rapidement. Et quand ils sont bénis, vous recevez des bénédictions. Quand vous amenez quelqu'un au Seigneur, la personne grandit dans le Seigneur. Il dit, heureux êtes-vous si vous enseignez aux gens à obéir à la parole. Donc, si vous voulez vous-même récolter les dividendes des âmes que vous gagnez, donnez aux âmes la base. La base, c'est le contrat avec Dieu. Toute votre vie spirituelle doit être une vie de contrat. Ça ne marche pas, regardez le contrat. Vous verrez dans le contrat pourquoi ça n'a pas marché. Une question avec Justin, et on va terminer. Oui. Il est quelle heure? Ma montre affiche 21h15, là-bas je vois 22h. Ma montre s'est arrêtée parce que Dieu voulait que je parle. Regardez ma montre. C'est moi, il est quelle heure là? Oui, Dieu a arrêté ma montre parce qu'il fallait que je parle. C'est exactement comme à Gabaron ce soir. Il fallait que vous entendiez ça. Si c'est pas ça, je n'ai pas savoir qu'il est 22h. Et 21h15. Oui, c'est ça. Dieu n'a pas changé. Il arrête encore l'heure. Bon, allez, je vous écoute.
En fait, ma question, c'est plus ou moins au niveau de la forme. En fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre donner sa vie à Jésus? En fait, est-ce qu'on peut donner quelque chose qu'on n'a pas? Et c'est la première question, parce que je pense pour un nouveau chrétien, quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, il peut recevoir Jésus.
Je suis d'accord avec vous.
Donner sa vie, c'est peut-être après ce que... Après le...
Je suis d'accord. Votre deuxième question, j'y reviendrai. Je suis d'accord, j'ai compris. Question,
j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui existe et quelqu'un qui vit? Parce que...
Oui. Ok, d'accord, c'est bon. Oui, alors, première question, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas à abus et pas à convention que nous disons tous, donnez ta vie, donnons notre vie à Jésus. Parce que comme le dit Carambirier, c'est vrai, mais on donne ce qu'on a.
Jésus, par sa mort, nous a achetés. Nous sommes des esclaves. Je ne peux pas avoir payé un esclave et quand je l'appelle, il dit que bon, patron, aujourd'hui, je suis d'accord, je vais m'offrir à toi. Mais tu ne peux pas t'offrir à moi, tu m'appartiens. Si peut-être, parce que je suis un maître gentil, je t'avais laissé ta liberté, fais comme tu veux, c'est autre chose. Mais la réalité, c'est que si Dieu voulait être autoritaire, il n'a pas besoin de votre avis pour prendre votre vie. S'il veut te tuer tout de suite, là, c'est une seconde, hein, ce n'est pas une minute. Donc, effectivement, nous n'avons pas de vie à donner à Dieu. Nous lui appartenons, il nous a racheté au prix le plus fort, celui de son sang. Mais quand nous disons, nous donnons notre vie à Jésus, c'est Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a fait l'un des plus grands cadeaux qu'il n'a même pas fait aux anges. Il nous a donné la liberté de choisir de lui obéir ou de lui désobéir. Ce qu'on peut donner à Dieu, c'est le sacrifice volontaire de lui obéir. C'est le sacrifice de rendre notre vie disponible pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Parce que nous lui appartenons, mais nous avons la particularité d'avoir un Dieu qui, bien que nous lui appartenons, nous laisse la liberté de venir ou de ne pas venir. Nous prenons la décision de nous rendre disponibles, de nous offrir, bien qu'il aurait pu nous prendre, nous lui appartenons. Mais il est tellement miséricordieux qu'il nous donne encore la liberté, bien que nous lui appartenions, de nous rendre disponibles pour qu'il l'utilise. Et donc, il a raison, si on veut être rigoureux, on reçoit le salut, on reçoit le Seigneur. Je préfère encore dire, on signe un contrat avec Dieu, mais en fait, on ne lui donne pas notre vie parce qu'elle lui appartient. Mais on lui rend notre vie disponible, on le lui offre sur l'autel en sacrifice de bonne odeur. Donc je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un peut exister sans vivre? C'est le cas de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et de beaucoup de gens qui connaissent le Seigneur à la bouche, mais qui ne le connaissent pas. Nous existons tous. Si tu n'es pas mort, c'est que tu existes. Mais vivre, c'est autre chose. La vie, c'est quoi? C'est de vivre, de prospérer, de grandir, d'atteindre le but pour lequel tu as été créé. Quand nos finances sont en difficulté, c'est qu'il y a de la mort dans nos finances. Quand nous sommes malades, c'est qu'il y a de la mort dans notre corps. Quand nous avons un problème de paix, c'est qu'il y a de la mort dans notre cœur. Quand nous sommes accablés, c'est qu'il y a de la mort dans nos sentiments. En réalité, les problèmes de l'homme sont les problèmes de la mort qui a corrompu l'humanité depuis le début. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore enterrés existent, mais ils n'ont pas la vie au sens de Dieu. Ils ont la vie charnelle, ils ont la vie de la matière. De ce point de vue, l'arbre aussi vit. Mais l'arbre n'a pas la vie de Dieu. Quand vous revenez au Seigneur, vous prenez entièrement possession de la vie que Dieu vous a destinée. Il y avait une question à l'arrière là-bas? Oui? Un apport, allons-y, brièvement.
Alors, c'est pour dire que j'ai expérimenté le contrat dont vous parlez. Et ça, c'est que ça se passe toc-toc, comme on le dit. En fait, j'ai retrouvé un jour un portable par terre. Il y a des gens derrière moi qui voient d'abord derrière leur habillement. Tu sens que ceux-là, quand ils te voient avec ce portable, ils vont te prendre le portable. Alors j'ai pris le portable, je l'ai mis dans la poche et quelques mètres après, j'ai fouetté le portable. Vu les appels que le monsieur a émis dernièrement, j'ai appelé la personne et il est venu, je lui ai remis son portable. Quelques jours après, je vais sur le campus et en son temps, j'étais coordonnateur de conjurance. J'étais dans le bureau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis debout et je laisse tomber ma clé. Je ne sais pas la clé de ma moto que j'ai achetée nouvellement. Alors, je cherche la clé partout avec les trucs là, ceux qui sont avec moi, mes collaborateurs. Je cherche la clé partout, je ne trouve pas. On enlève les chaises, on fouille tout, je ne retrouve pas la clé. Et là, je me plante maintenant debout pour dire. Il dit, la fois passée, lorsque j'ai retrouvé le portable d'un ami, de quelqu'un, moi, je l'ai remis. Je dois retrouver ma clé. Lorsque j'ai dit ça, je regarde par terre et à côté, je retrouve ma clé.
Ça, c'est un travail.
Je retrouve ma clé. Après ça, on m'a envoyé en mission d'évangélisation à Sékou un jour. Et j'ai un portable Samsung. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais venu à un niveau donné, j'ai pu retrouver le portable. Je me suis retourné à Sékou, chercher le portable, j'ai appelé, j'ai pas retrouvé le portable. Je suis revenu maintenant à Cotonou, j'ai dit, je recommence à dire, tu m'as envoyé en mission d'aller dire la bonne, d'aller annoncer la bonne nouvelle et je perds mon portable. Là, je ne peux pas ça. Je dis, ça fait un mois, deux mois et je retrouve le portable à Cotonou ici. Auprès de quelqu'un, je l'ai interpellé, je l'ai dit, ça c'est mon portable. Il n'a pas hésité à me remettre en quelques semaines, on a discuté, il m'a remis le portable. Donc,
merci beaucoup.
C'est pour dire que vraiment, c'est que quand on l'interpelle vraiment par rapport à ce contrat-là, il répond lui-même ce qu'il a promis.
Tout à fait.
Et qu'il doit faire.
Vous avez tout à fait raison. Et la Bible est pleine d'exemples comme ça. David a refusé de toucher Saül, de tuer Saül. Quand Absalom, son propre fils, lui a fait un coup d'État, il était tranquille, le pouvoir lui est revenu. Si tu n'as pas attaqué ton chef, Dieu ne permettra jamais que quelqu'un t'attaque en tant que chef. Et David a beaucoup usé de cela. Dernière chose que son exemple me permet d'attirer, regardez bien. Il a fallu qu'il dise. Dieu, quand Dieu dit, si quelqu'un, je dois quelque chose à quelqu'un, ou si j'ai oublié quelque chose, la personne me le rappelle. Au début, moi-même, j'étais du genre à dire, mais c'est manquer de respect à Dieu que de lui rappeler. C'est pas manquer de respect à Dieu que de lui rappeler. C'est une obligation que de lui rappeler. Si tu ne rappelles pas à Dieu ce qu'il a promis, ou que tu ne revendiques pas ce qu'il a promis, il ne te le donnera pas. Quand les Daniels étaient en captivité, Dieu a dit 70 ans après vous sortez de captivité. Après 70 ans, rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que Daniel commence à intercéder, à prier, à revendiquer la promesse qu'au bout de 70 ans, il sortait de captivité. C'est là où Dieu l'a exaucé, même si l'ange a bloqué. C'est pareil pour Néhémie. Et ça s'explique par quoi? Puisqu'il y a beaucoup de juges, je vais vous l'expliquer. On t'a violé. Ça te donne le droit à ce que celui qui t'a violé aille en prison pour 5 ans. Tu décides de ne pas aller au tribunal, dire qu'on t'a violé, que tu réclames justice. Même si le président du tribunal est informé, il a le droit d'aller arrêter le gars. Le gars va dire, en vertu de quoi vous m'avez arrêté? Quelqu'un a porté plainte contre moi? Non. Alors, en vertu de quoi vous m'arrêtez? La loi dit qu'il faut que quelqu'un soit plein de moi. Personne ne soit plein de moi, pour vous m'arrêter. On dit à la femme, tu as quelque chose à dire? Je préfère me taire, Dieu fait comme tu veux. Le mari ne peut pas enfermer ce gars-là. On est venu voler ta moto. Tu n'es pas parti au commissariat, dit qu'on a volé ta moto. Et un jour, tu vois quelqu'un en moto, dit c'est ma moto. On dit c'est vrai. Tu as perdu ta moto. Où est la déclaration de perte? Tu n'as pas fait de déclaration de perte. Voleur va. Qu'est-ce que tu as perdu ta moto? On est dans un pays où quand on perd sa moto, on doit le déclarer, garder la preuve qu'on l'a déclarée. On doit dire à la police, trouve-moi ma moto. Si vous allez au tribunal, le juge dit, quelles sont vos prétentions? Tu réclames quoi en dommage intérêt? Tu réclames quoi en justice? Tu réclames quelque chose? Le juge opine et tranche. Mais celui qui dit, bon, je laisse toi à Dieu, libérez-le. Si l'accusation renonce aux poursuites, à part quelques racas comme les viols, si on a déjà été la personne, le magistrat ne peut pas condamner quelqu'un quand l'accusation renonce aux poursuites. Ou bien, cela veut dire, comme je vous l'ai expliqué, que la vie est un tribunal. Dieu est le magistrat, Jésus est l'avocat, Satan est le procureur général. Vous êtes l'accusé. C'est le cas de Job. Quand Satan veut vous appliquer une maladie, il va au tribunal de la vie, dit lui, il va être malade. Et on fait le procès pour voir s'il y a des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas être malade. Si vous n'avez pas de quoi vous défendre, ou si était incapable de vous défendre, vous n'avez pas un avocat qui est capable de vous défendre, Satan va vous condamner que vous avez tort ou raison. On peut être innocent et faire la prison si on ne sait pas se défendre et que celui qui vous accuse est malin. Ce n'est pas la faute du magistrat. Ou bien, c'est pareil dans la vie. L'accusateur de nos frères était précipité. Jésus est l'avocat qui se tient au Père du Père et qui intercède en permanence pour les chrétiens, pas pour les païens. La Bible dit quelque part, Dieu a voulu frapper son peuple. Il a cherché une seule personne qui se tient à la brèche pour demander de ne pas les frapper, il n'a pas trouvé. Vous êtes dans un tribunal, vous êtes coupable. Votre avocat ne demande pas que vous soyez relaxé. Il ne plaide pas, par exemple, une garde à vue excessive, ou ne plaide pas l'abus de preuve, il ne dit rien. Il dit, bon, monsieur le président, faites comme vous voulez. On va vous condamner. On va vous condamner. Donc, la loi est importante. Quand vous voulez réclamer quelque chose, quand vous avez droit à quelque chose, Seigneur, tu as promis que, tu as dit de faire ça, j'ai fait ça. Seigneur, honore ta parole comme toujours, toi qui es fidèle. Apprenez par la parole à prendre possession de ce que Dieu vous a destiné.
Merci beaucoup.
Oui.
Je traînais depuis un bon bout de temps un fardeau avec l'évangélisation que je résume en 3 cas concrets dont je viens d'avoir un peu la réponse ce soir.
On rend grâce à Dieu.
Le premier cas, c'est que j'ai eu un client à moi il y a quelques mois qui un jour s'est trouvé en face d'une situation où sa femme a été arrêtée. Elle a été envoyée en prison. pour une question de responsabilité. Elle est responsable d'un groupe qui a été coupable de vol. Donc, elle a été envoyée en prison. En temps, les gens ont voulu perquisitionner chez lui. Il a refusé. Alors, le procureur a donné une convocation pour un autre jour d'audience avec la femme. Alors, il m'a raconté ça au téléphone et je lui ai dit, la Bible déclare qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. S'il croit en Jésus-Christ, il n'a qu'à répondre Amen et qu'il verra que demain, quand il se rendra là-bas, il lui et sa femme seront relâchés. Il n'a même pas répondu Amen. Le lendemain, vers 16h, c'est là qu'il m'appelle en criant Amen, Amen, Amen. Et lui et sa femme ont été relaxés. J'ai pensé que c'était une occasion pour moi et que je pouvais toucher, avoir cette âme. J'ai tout fait, ça n'a rien donné, il est resté dans son monde, ainsi de suite. Je n'ai pas compris pourquoi. Et je continuais, je traînais ce fardeau. Quand quelques temps après, j'ai eu encore un autre ami à moi qui avait beaucoup de problèmes, qui a débarqué chez moi un soir en traînant sa moto qu'il a traînée depuis Menotin jusqu'à Godometogudo là-bas, tout en sueur. Alors, il me dit que la moto vraiment fait zim et puis ça s'est gâté, il veut 10 000, il a été chez sa soeur, elle n'a pas pu lui trouver l'argent et puis il est revenu à la maison. Voilà ce qu'il veut. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'argent. La Bible dit que Dieu détient le cœur des rois entre ses mains et qu'il incline vers ce qui lui plaît. Et que si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même le cœur de ses ennemis. On a prié dessus et j'ai dit, viens avec moi. Parce que j'ai compris, j'ai retenu que moi-même, je n'ai pas la capacité de toucher des âmes afin de les conduire. Et j'ai dit, viens avec moi, je vais à une séance à l'église. Il m'y a accompagné. Et dans la nuit, il avait travaillé il y a 5 ans plus tôt chez quelqu'un à Guaitmont, qui dans la nuit, dans la journée, avait croisé sa soeur, une de ses cousines, et qui s'est mis à le rechercher. Et la nuit, ils sont allés chez sa soeur avec Agua, qui disait qu'il peut voir son grand-père là. Elle lui a donné son numéro, le lendemain, Agua l'a appelé. Il est allé, il dit, bon, je t'ai plus vu, ça fait un bon bout de temps que vraiment je voulais te voir. Donc, il lui a raconté tous ses problèmes. Lui lui remet 50 000, et lui donne un emploi, il lui donne une maison. J'ai estimé aussi là que voilà, j'ai une occasion d'avoir touché une âme. Il est venu à l'église quelques fois, il est venu même au club ici une ou deux fois, et après il est retourné dans son monde, il est allé, après il a ouvert QG, il vend Sourabi, en plus du travail qu'il fait. J'ai dit, mais là, vraiment, il y a mon chagrin continuer de ne pas pouvoir être en mesure d'accompagner les âmes que le Seigneur envoie sur mon chemin pour être sauvées. La semaine passée, le dernier cas, je sortais de l'église quand j'ai vu plusieurs appels en absence sur mon portable. J'ai rappelé la personne, il n'a pas pris et après il m'a appelé. Quand il m'a appelé, c'était avant-hier, il m'appelait, il me disait qu'il a vu mon numéro quelque part et que là où il a vu mon numéro, que c'était là où il y a quelques 2 ans plus tôt, des Rosy Cruciens se réunissent quelque part où une maison que je gère et que lui, il voulait reprendre contact avec eux. C'est pourquoi, comme il est venu, ils ne sont plus là. Il a préféré prendre le numéro qui est sur la porte et appeler. Alors, je lui ai dit, il n'y a plus de Rosicrucien là, mais en fait, de quoi il a besoin? Il dit, en fait, il veut s'initier. Parce que j'ai insisté pour avoir... Et il m'a dit finalement qu'il veut s'initier. J'ai dit, bon, d'accord. Il est où actuellement? Il m'a dit qu'il est à Godomain. Moi, j'étais à Togdo. J'ai dit, bon, je viendrai sous l'échangeur, je vais t'appeler. Et puis, on va en parler, je verrai comment t'aider. Quand il est venu, effectivement, on s'est vu. Il m'a raconté sa vie. Au point maintenant, il est prêt même à donner sa vie ici pour que sa famille puisse se trouver à l'aise. Vraiment, tellement de problèmes. Je ne veux pas revenir dessus. Le temps est parti. Et je lui ai dit, moi, je te propose tout simplement mieux. J'ai fait de mon mieux. Et je l'ai amené également à l'église. Et ce matin, je suis allé chez lui. Après que hier, je l'ai confié à des gens à l'église. Et puis, ils l'ont pris en entretien, tout ça. Et ce matin, je suis allé chez lui quelque part vers Godomain Seugé. Et je lui ai dit comment ça va. Il dit vraiment, depuis de longues années, depuis 5 ans qu'il traîne ses fardeaux, il a perdu totalement espoir à la vie, que c'est pour la première fois qu'il a pu dormir comme un bébé. Et que vraiment, c'est maintenant qu'il a retrouvé une paix totale. Et je lui ai dit justement que le royaume, ce que la vie, et pour répondre aussi à une question que vous demandez tout à l'heure à chacun de nous, qu'est-ce que nous pouvons proposer aux gens? Je lui ai dit à lui ce matin
que ce que nous proposons, c'est la paix, la justice et la joie que jamais le monde ne peut donner. Et c'est ce qui justifie sa paix. Mais j'ai continué, depuis que j'ai quitté chez lui, à continuer de me demander si ce qui s'est passé avec les deux autres ne va pas se reproduire, jusqu'à ce que je comprenne effectivement ce soir que il faut pouvoir amener les gens à comprendre véritablement quelle est l'alliance dans laquelle ils sont en train d'entrer, afin d'obéir à l'alliance et de pouvoir grandir dedans. Vraiment, je dois vous remercier pour ce séminaire. Merci.
Merci beaucoup. Quand vous parlez, le Saint-Esprit m'a encore mieux illustré la chose. Le Saint-Esprit a tiré mon attention sur la chose que voici. Nous sommes dans un pays de païens. Quand un païen a un problème, il va voir un féticheur. Pour peu qu'il donne un mouton ou un bœuf, on règle son problème. Quand le problème est réglé, il n'a plus rien à voir avec le féticheur jusqu'au prochain problème. Ou bien, il y a aussi des pasteurs, les gens viennent, ils prient pour eux. Quand le gars a donné son offrande, il oublie le gars jusqu'au prochain problème. Une femme qui cherche un enfant, elle viendra à tous les programmes de votre église. Quand elle accouche, elle fait une grosse offrande dans le meilleur des cas. Généralement, elle disparaît jusqu'au prochain problème. Nous avons une culture de fétichisme et d'idolâtrie qui fait que les gens vont voir le féticheur comme quelqu'un qui fait une intervention ponctuelle pour qu'ils aient quelque chose et ils retournent dans leur vie. Comme on va chez un docteur, j'ai mal au ventre, je vais voir le docteur, il me guérit. Quand j'ai fini de guérir, est-ce que j'ai besoin d'être un ami du docteur et d'aller voir tout le bâtiment et demander comment il se passe? Non, nous ne nous en rendons pas compte. Quand nous prenons les gens, comme je le disais, que sans leur parler de l'alliance, sans leur parler du contrat, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus, lui aussi dit alléluia, donne ma vie à Jésus, même s'il y a un miracle, il met le miracle dans le registre de j'ai été chez un docteur, il m'a guéri. Mon contrat avec lui est fini, j'ai besoin d'être ami avec le docteur parce qu'il m'a guéri. J'ai été voir un féticheur, je voulais avoir un enfant, il m'a donné un enfant. Je lui ai donné un mouton. J'ai besoin d'être ami avec lui tous les jours. Si vous ne... C'est-à-dire, le Saint-Esprit me disait, il est en train d'expliquer pourquoi il faut encore expliquer, insister sur l'alliance. Si vous n'expliquez pas aux gens que je veux une alliance avec vous, je veux marcher avec vous, je veux un contrat avec vous. Regardez, si tu m'obéis, voilà. Si tu ne m'obéis pas, voilà. Je veux un contrat avec vous. Si vous ne leur dites pas que c'est un contrat, ils vont croire que je ne suis qu'un de ces féticheurs. Ils vous suivront pour venir à mes pieds. Ils auront ce qu'ils voudront et ils retourneront dans le monde, croyant que je suis comme leur fétiche, un distributeur de miracles. Et donc, pendant que vous parliez, je recevais encore plus la confirmation spirituelle du point auquel je n'avais même pas réalisé moi-même. Le contrat est la seule chose qu'on doit proposer à quelqu'un. Le contrat avec Dieu. Si quelqu'un n'est pas prêt à signer un contrat avec Dieu, il a y réfléchi, qu'il sera prêt qu'il vienne. Moi, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je ne demanderai plus jamais à quelqu'un de donner sa vie à Jésus si je ne suis pas sûr qu'il connaît les termes du contrat. Sinon, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Bon, qui va faire la prière de clôture? Eric? Parfait.
Père de grâce, nous te disons merci.
Merci, Seigneur.
C'est un moment merveilleux que nous avons passé en ta compagnie. Ta parole, celle dont nous avons besoin pour édifier nos vies, pour marcher avec toi et plus, pour évangéliser le monde, pour être des instruments en tes mains, pour que ton royaume s'établisse sur la terre, nous a été encore au rendez-vous. Merci pour les coins d'ombre que tu as éclairés dans la vie de chacun de nous. Chacun en a reçu. Seigneur, nous te bénissons. Merci de nous aider par le collaborateur stratégique qu'est le tien, le Saint-Esprit, dans nos vies, à marcher selon tout ce que nous avons entendu ce soir.
Amen.
Que nous puissions les mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, alors que nous allions rentrer chacun chez nous, que le ministère des anges soit détaché,
amen,
afin que chacun dans son, à son poste de sécurisation des personnes et des biens autour de nous puisse travailler efficacement pour que nos vies témoignent véritablement de ce que tu es, notre Père, pour que le monde puisse faire la différence entre ceux qui adorent véritablement Dieu en esprit et en vérité et ceux qui ne l'adorent pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Tandis que la solution existe.